1 000 euros, est-ce que on est d'accord, c'est en dehors du budget musée, construction du musée, pour la scénographie?
Non, parce que c'est dans l'enveloppe globale du musée.
C'est dans la PCP.
C'est dans la PCP.
D'accord. Sur la 140,
oui.
Sur la 140, on est sur les travaux d'aménagement des aliments. De la route des aliments, pardon, plus 20 000 euros. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est un exemple parfait de ce qui va se passer par la suite pour le musée, pour les constructeurs, puisque on a des petites augmentations comme ça régulièrement, on va dire.
Les 20 000 euros, c'est des travaux de réseau de pluvial. On avait prévu un certain montant, et puis quand on est arrivé pour rebrancher les réseaux de pluviaux sur les anciens, on s'est aperçu que les anciens, même avec passage caméra, on pensait qu'ils étaient bons, mais on a vu que les bétons du réseau étaient abîmés, donc on a rallongé un petit peu, et donc du coup, 2-3 petites bricoles sur le chantier, c'est pas énorme. Ça se maintient, il y a eu des plus et des moins, des fois il y a des moins, des fois il y a des plus, il y a 20 000, ouais. Sur le montant, c'est pas, ça rentre dans un truc courant dans les chantiers, pas de problème.
Madame Le Gallant,
ouais, par rapport à ce bordereau, justement, la route des alignements, on avait une ABCP de 1 million, monsieur
Lejean, 1 637 000. 1 607 000.
1 607 000, d'accord.
TTC, oui.
TTC, d'accord. Et là, en fait, on a de l'eau, est-ce que. Enfin, et ça représente, quand on voit le global, 709 000 euros. Il y a du. Enfin, je sais pas.
Et après, il y a le nord de Carlan qui est en travaux en ce moment, qui faisait partie de la PCP.
D'accord, donc il n'est pas.
Là, c'était la route des alignements, et là, c'est le nord de Carlan qui sera fait après.
Ouais.
On est toujours dans la PCP, on sera sûrement en dessous, mais bon, tant que c'est pas fini, il peut y avoir des chiffres qui bougent, comme on a les 20 000, donc on vous dira que ce sera tout fini.
Donc l'aménagement de Carman plus la route
des alignements,
c'est 1 million.
C'est prévu 1 million sur 7 000, mais on n'est pas, je pense qu'on sera en dessous, hein, même si il peut y avoir des plus ajustements, et comme l'eau n'est pas finie, et je peux pas vous dire exactement où on en sera. Il y a des plus des moins, comme tous les chantiers.
Lorsqu'on fait les budgets, on prévoit quand même un aléa derrière. Donc là, les 20 000 par rapport au budget global, Yann, rentre largement dans l'aléa.
Oui. Alors, d'autres questions?
Oui, je vais continuer. Je vais partir. Sur la 144, les travaux du secteur de Carlan, si on monte un peu au-dessus de Carlan, il y a le bâtiment de Mme Bréjean qui était à vendre. Est-ce que vous avez l'intention de l'acheter? Ou le prêt en quitté?
Non, il a été vendu.
On va le voir plus tard, mais il y a plusieurs bordereaux sur les enceintes de ville et autres. Il y a l'UNESCO maintenant, c'est très bien. Est-ce qu'il n'aurait pas été intéressant, intelligent, de préempter ou d'acheter ce bâtiment-là, justement, par rapport à cette entrée de ville-là qu'il va falloir retravailler?
Alors, c'est une question qu'on s'est posée, hein, mais on ne peut pas être partout. Le problème, c'est qu'on pouvait difficilement faire du logement compte tenu des règles d'urbanisme sur cette zone. Hein. Il y a quelques années, elle était 100% constructible. Aujourd'hui, au fil des lois qui ont restreint l'urbanisme, c'était beaucoup moins intéressant et on préfère se concentrer sur des zones, même si, encore une fois, enfin, il y a aussi l'autre côté, hein, qui est aussi...
D'ailleurs, on est de l'autre côté, si vous avez l'intention, pour le coup, là, de...
Le jour où ce sera en vente, on se posera la question, mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Mais oui, pourquoi pas, enfin, c'est effectivement un endroit stratégique sur lequel on pourrait se poser la question. Après, côté ouest, il y avait vraiment trop de restrictions en matière d'urbanisme pour faire quelque chose d'intéressant pour la commune, notamment faire des logements, puisque voilà, à ce moment-là, on aurait pu faire des logements. Mais encore une fois, le droit rendait la possibilité compliquée, puisqu'on ne pouvait quasiment pas toucher on ne pouvait pas reconstruire les deux hangars qui sont sur le côté. Et puis voilà, le prix, enfin, je pense que ce sera public, le prix de vente a quand même été assez élevé aussi. Hein.
Deux remarques par rapport à ce que vous venez de dire. La partie logement, je ne voyais pas trop des logements à cet endroit-là, mais plus l'accueil des touristes, pour parler clairement, qui vont venir à cette entrée de ville-là, plus que du logement. Après le montant, moi, le prix que j'ai entendu n'était pas élevé par rapport à l'emplacement. Mais on verra le jour où ça
sera. Oui, tout à fait.
On aura le vrai prix. Bon. Sur la
Oui, moi je voulais rajouter par rapport aux travaux d'aménagement, en effet, par rapport à la question que vient de poser Yann sur le fait que Madame Bréjean vendait donc toute cette partie-là, vous aviez mis fait une zone réservée de l'autre côté. L'autre partie de l'autre côté de la route, là, vous avez fait
côté Jacques.
Donc, pour quelle raison, en fait, puisque là, c'était en vente, ça aurait pu faire un enfant, parce que quand vous nous avez exposé le pourquoi de créer une zone réservée, vous nous aviez exposé que ça permettrait peut-être d'accueillir tout ce qui était les petits trains, enfin bref, tous les vélos, enfin tout ça, de faire vraiment une entrée de bourg digne de ce nom. Et c'est vrai que moi, je ne comprends pas bien pourquoi là, on n'a pas fait l'acquisition. Le prix qu'on en a eu, après, je pense que c'était, voilà, c'est ce qui m'a été dit par rapport à toutes les dépenses qui sont faites autrement. Je trouvais que c'était raisonnable, en tout cas.
Pour la même raison que vous avez expliqué, c'est-à-dire qu'entre le moment où on a mis un emplacement réservé et le moment et l'évolution de la législation, les pertes de constructibilité ont été importantes. Et donc, il y a un moment, il y a un arbitrage entre un prix qu'on considérait faible, mais si derrière, vous êtes intéressant sur le terrain, je pense que du côté de chez Jacques Bréjean, il y aurait un peu plus d'intérêt, c'est sûr, mais encore une fois, hein, Jacques Bréjean, côté Jacques Bréjean, côté les deux côtés, il n'y a pas très longtemps, je passe au contrôle de Michel, c'était quasiment totalement à 100% constructible. Oui. Aujourd'hui, ça l'est très très peu. Et en fait, voilà, acheter quelque chose que vous considérez pas cher, mais dans, sur lequel on peut rien faire, je crois pas que ce soit l'intérêt de la commune, et sur, je crois pas que ce soit l'intérêt, surtout bien compris, des finances municipales. Il vaut mieux acheter à des endroits où on peut faire, parce qu'on a vraiment des problèmes massifs de logement. On a un bordereau d'ailleurs dans une autre entrée de ville sur lequel on va se positionner tout à l'heure. Là, on peut faire 60, 80, 90 logements. Donc je préfère mettre l'argent de la commune dans des choses qui vont avoir un impact plutôt que, même si sur le fond je ne suis pas en désaccord avec ce que vous dites, il eût été intéressant. Si on avait pu préempter il y a 10 ans, ça aurait été quelque chose de très intéressant. Aujourd'hui, malheureusement, avec le renforcement des lois et la baisse de la constructibilité sur ces deux parcelles, ça devenait beaucoup moins intéressant pour la commune.
Mais est-ce que vous pensez qu'il fallait construire là? On parle d'accueil parce que vous avez, il y a quand même l'UNESCO. On voit bien qu'on...
Non, mais la question ne se pose pas. On ne peut plus.
De tout ce qui est petit train, le pouce-pouce, les bus, hein, je veux dire... On a toujours dit qu'il fallait faire quelque chose pour accueillir en fait toutes ces personnes qui viennent de l'extérieur.
Madame Le Gallon, on ne va pas non plus investir de l'argent de la commune pour satisfaire des activités privées. Si le petit train, il est aujourd'hui, il a des locaux dans la ville de Montauban, c'est là qu'il gare ses petits trains. On ne va pas utiliser l'argent de contribuables carnacois pour résoudre les problèmes des entreprises privées. Encore une fois, ça aurait pu être intéressant il y a quelques années. Notre liberté de manœuvre d'aménagement sur ces endroits fait que on a renoncé à...
Voilà, je suis heureuse de vous entendre dire que vous n'allez pas utiliser l'argent des carnacois pour des intérêts privés, mais ce n'est pas le cas pour tous les bordereaux qui vont suivre. Et je maintiens ce qu'on essaie de dire, c'est que la vision là, elle était globale. Si on avait acquis les deux côtés, on pourrait faire quelque chose d'intéressant, et ce n'est pas ce qui a été fait.
Je ne commence pas à vous proposer le vol.
Je vais poursuivre sur la 151 d'Illico. C'est le type quoi?
Alors.
Monsieur Lejean va vous expliquer. C'est un petit peu raquette de l'État.
C'est la participation pour le désendettement de l'État qui a été sollicitée en 2025. Donc toutes les communes ne sont pas sollicitées sur le Morbihan, si Estelle me dit 10. Ok, la première étant Arzon, on doit être la deuxième si je dis pas de bêtises. Voilà, derrière à participer pour le désendettement de l'État, et il faut savoir qu'on aura droit à la même chose sans doute pour 2026 avec un montant sans doute réévalué. On retrouve un petit peu la même logique qu'il y avait à l'époque du président Hollande qui avait demandé une participation des collectivités au désendettement de l'État, qui ne s'est pas désendetté, hein, mais on a quand même participé, voilà, et qui nous a fait chuter notre DGF où on était à 1,9 million, on est tombé à 740 000 euros cette année. Ouais.
Alors, d'autres points?
Alors, juste sur ce point-là, en fait, l'État a déjà prélevé, vous attaquez l'État parce que le prélèvement est abusif.
C'est un collectif de collectivités, de communes qui attaque l'État.
Justement, ça a été le...
C'est pas tout nous tout seul.
Alors, la problématique a été, c'est que l'État a mis en place une taxe l'a fait fonctionner tout de suite, sans qu'il y ait débat avec les collectivités concernées derrière. Et donc, à partir de là, le groupement des maires de France s'est positionné pour dire qu'effectivement, c'était peut-être un peu rapide, le prélèvement, hein, puisque non seulement il l'a appliqué, il l'a mise en place, il l'a imposé, il l'a appliqué, il l'a prélevé.
Autre point ?
Le point 2025-142, sur location d'un local communal à l'association paysanne et égalité de Carnac et du Sud-Orient pour 12 000 euros annuels. Donc ça, c'est bien la maison bleue, c'est ça ?
Oui,
donc cette maison, c'est une loge, qu'est-ce qu'il y a
pour les... Oui, c'est les bureaux.
Des bureaux ?
Oui.
Donc il n'y a pas de logement ?
Non, non, non. D'accord.
À l'époque.
Non, on ne va pas faire l'histoire de la Maison Bleue. Pascal, je passerai un tarissable, je sais, mais oui, en répond à votre question, ce sont les bureaux.
D'accord. Vous parliez du loyer tout à l'heure, qui était peu élevé au niveau du presbytère. Est-ce que là, vous trouvez que le loyer, en fait, quelque part, c'est local communal, donc on prête à l'association Paysage et Mégalithes. Est-ce que vous pensez que c'est le prix ou...
C'est le prix.
C'est le prix. D'accord. Sinon, moi, j'ai aussi la 2025-153, avenant numéro 2, modification de la répartition financière pour la construction du futur musée de préhistoire de Carnac. J'ai pas bien vu la différence entre l'avenant 2...
Eh bien, il n'y en a pas, en fait. C'est juste une question de ventilation à l'intérieur, mais pour des raisons administratives, il fallait qu'on modifie, mais le montant global n'est pas affecté.
Okay. Mais ça aurait été bien, justement, de nous donner cette ventilation différente, parce que vous nous faites un bord de... voter un bordereau, et comme on voit, c'est exactement...
Ah non, c'est pas...
Non,
pas
voter. Non, vous votez pas. Vous avez pris la décision.
Voilà. Vous votez pas, c'est une décision.
Ça aurait été intéressant.
Oui, mais on peut vous fournir le fichier Excel. Enfin, c'est juste une ligne de 20 000 euros qui était positionnée dans une mauvaise nomenclature, et pour des raisons administratives, voilà, reformulée. Ok, on passe au point numéro 4, la désignation d'un représentant au sein de la SPL Aurec-Quiberbon Carnac Tourisme, suite à l'émission de Madame Madeleine Noué. Et en substance, parce que je pense que ça me posera, proposons donc de désigner Madame Christine Lamandé pour remplacer Madame Nadine Noué à ce conseil d'administration. Est-ce qu'il y a des commentaires, des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Le rapport suivant porte sur la convention de prestation de services pour l'administration générale du CIVU. Ah, vous savez que le CIVU est géré par un conseil d'administration dans lequel siègent les représentants des communes de ce CIVU, hein, à savoir Plouarnel, Carnac, La Trinité-sur-Mer, Saint-Philibert.
Le Mariaquer, cinq communes, oui.
J'ai bonne mémoire. Évidemment, une commune, de manière tournante, se charge de la gestion administrative, et donc cette fois-ci, c'est Carnac qui va gérer la partie administrative, et donc nous avons donc une convention qui va être signée entre le CIVU et la commune de Carnac, sous la présidence honorable de M. Marc Imbert, et donc vous avez eu une note de synthèse et donc cette convention, dont le coût de prestation annuelle sur les 3600 euros TTC annuels, et donc c'est la mairie de Carnac qui va se charger de cette gestion administrative, et on sait à quel point nous sommes tous attachés à notre CIVU. J'imagine que vous n'y voyez pas d'inconvénient.
Je faisais ça avec une secrétaire, et puis bon, c'était un peu limite, parce qu'il y avait des choses qu'on faisait bien, mais voilà. Et du coup, c'est le même montant, la secrétaire touchait le même montant que ce que la commune prélève, donc ça bougera pas le budget du CIVU pour les 5 communes.
Mais en fait, ce secrétariat est fait par nos administratifs.
Oui, mais avant, c'était une personne qui le faisait en plus de son travail.
Qui était
une employée communale qui faisait un plus de son travail le samedi et le dimanche quand elle voulait faire. Et puis, comme maintenant tout se complique, on a décidé de faire. Elle le fait, mais pendant son temps de travail. Et du coup, c'est rémunéré à la commune. Ça ne change pas le montant pour le CIVU ou quoi que ce soit.
Ce sera pas toujours Carnac.
Ce sera renouvelé dans la convention. Ce sera renouvelé.
C'est la première fois qu'on fait ça finalement.
Non, non, c'était dans le passé, il y avait déjà des employés communaux qui le.
Oui, mais il le faisait en tant qu'un peu privé.
Un avis personnel.
Enfin, depuis que je suis venu, depuis 2004, c'était comme ça, quoi. Une commune, l'autre, une fois c'est souvent la Trinité, et puis nous. Puis là, c'est nous qu'on le prend, parce que ça, c'est sur place, c'est plus facile. Ouais. Pas de souci.
Bon, pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité, je vous remercie. Monsieur Lejean, une décision modificative, la première de l'année ?
Oui.
Je ne crois pas.
Si.
Ben, disons, c'est exceptionnel, on a failli terminer l'année sans décision modificative.
Bon, peut-être pas quand même, ça reste un petit peu compliqué, mais... Donc la première décision modificative de l'année pour le budget de la commune de Carnac avec pour un montant en dépenses de fonctionnement de 201 172 euros. Donc qui est dû surtout à des recettes supplémentaires que nous avons eues pour un 330 000 euros qui sont la taxe de séjour qui est décalée en termes de reversement. Pour un montant de 146 000 sur l'année 2023 et 104 000 sur l'année 2024. Hein. Vous savez, on a toujours un petit peu ces décalages-là. Donc 61 000 de dépenses qu'on a d'Idigo, hein, vous avez vu tout à l'heure, on en a parlé. On a 110 000 euros, 172 de subventions d'équilibre derrière. Et on est allé chercher dans le compte des imprévus, que, comme on parlait tout à l'heure, hein, qu'on se met dans chaque budget. Des aléas, là on a un compte pour 300 000 euros d'aléas, donc qui nous permet de rééquilibrer à 201 000. Sur les dépenses de fonctionnement, les recettes de fonctionnement, 34 000 de remboursement d'arrêt de personnel, vous savez que le système de la collectivité, on est assuré pour les arrêts de personnel, donc on a une assurance qui vient effectivement prendre en charge la rémunération, les tickets de restaurant. On a un ajustement de la DSC d'ACTA. ACTA a effectivement allongé un petit peu sa DSC, pour 16 839 euros qu'on a eu en plus. Et on a effectivement des droits de mutation, une taxe de séjour sur l'année 2025 supplémentaire par rapport à ce qu'on avait mis dans le prévisionnel. 100 000 euros pour les droits de mutation et 50 000 euros pour la taxe de séjour. Donc, il nous fait les 201 100, 112 euros qui équilibrent les comptes.
Ok.
Est-ce que... Il y a des questions ?
Je pensais qu'on en avait quelques autres décisions modificatives. Ouais. Ça, c'est parfait.
Non. Bah, moi aussi. Non, visiblement.
Il me reste un.
Je vais vérifier.
Alors, est-ce qu'il y a des votes contre cette décision modificative numéro 1 ou des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Une décision modificative, toujours la première pour le musée, cette fois-ci, monsieur Lejean ?
Oui, tout à fait. Donc, pareil, donc décision modificative pour 104 172 euros en dépenses de fonctionnement pour le musée et en recettes, bien sûr. Donc, 8 000 pour tout simplement la problématique de sécuriser le site de futur musée. 3 000 pour mais le grand montant pour 192 840 euros, c'est surtout 180 000 euros qu'on est obligé de mettre en place pour les assurances pour le démarrage de la construction. On a 88 668 euros de diminution de charges personnelles sur le musée, donc ce qui nous amène à 104 172, et on a 104 172 de subvention d'équilibre de la commune en termes de recettes. Pour la partie investissement, 51 000, donc 200 000 euros en dépenses et 200 000 euros en recettes. 51 000 dans les dépenses, 51 000 qui est une avance pour le marché multimédia, l'effet spécial que vous avez vu tout à l'heure. On va voir, je ne sais plus si c'est dans les décisions du maire. D'accord. 149 000 qui est l'anticipation des marchés des travaux, donc pour les avances, pour démarrer les travaux, hein, tout simplement du nouveau musée. Et donc en recette 200 000 euros qui est le fonds vert qui a été viré en début d'année 2025, hein, qui a été prévu pour 2024 mais que nous avons reçu en 2025. Donc tant qu'on n'a pas le virement, on ne pouvait pas le budgétiser.
Est-ce qu'il y a des questions ?
Ouais. Vous nous dites 88 668 diminution de charges de personnel. Qu'est-ce qui explique une telle diminution ?
L'explication est relativement simple. Je vous rappelle qu'il y avait une volonté de mettre en place pour réfléchir sur le nouveau musée, le travail avec le CMN, le Centre des Monuments Nationaux, merci Olivier. Et M. Olivier Agoguet chapeautait effectivement le CMN et le musée de la préhistoire, et le CMN a effectivement facturé la mairie.
C'est-à-dire que le salaire de M. Adoré était complètement pris en charge par le CMN, c'est ça?
Tout à fait. Il n'y avait pas la quote-part de la mairie, enfin du musée.
Et donc, du coup, l'aventure continue de cette manière-là ou pas?
Ah non, on a recruté une nouvelle... Vous n'avez pas vu qu'on a recruté une nouvelle directrice? C'était dans la... Dans la presse, ok. Non. Ça ne continue pas comme ça.
La transition.
Alors, est-ce qu'il y a des votes contre cette décision modificative numéro 1? Pas d'abstention non plus. Unanimité, je vous remercie. Monsieur Jean, la PCP,
alors,
modification.
Modification de la PCP pour le musée. Je rappelle, la PCP, c'est une autorisation de programme et une autorisation de paiement. Derrière, on étale ça sur plusieurs années, ça évite de bloquer le budget global sur une seule année, ce qui nous met les montants simplement par rapport aux années. Et effectivement, on a un prévisionnel de dépenses par rapport aux années. Dans le prévisionnel qui était prévu, il était prévu en 2025 920 000 euros de dépenses, et nous vous demandons de faire une modification pour pouvoir engendrer ce que vous avez vu tout à l'heure, ce qu'on a passé dans la modification du musée, pour monter à 1 120 000 euros pour pouvoir démarrer les travaux du nouveau musée. Le montant global ne change pas.
Du phasage. Alors, Madame Goldman ?
Oui. Donc, moi, par rapport à cet APCP, par rapport à cette APCP, ce que je vois, c'est que en effet, on avait prévu au niveau du musée en 2025 920 000 euros, et en fait, il y a 200 000 euros qui nous manquent, donc on vous demandez de voter cette modification pour passer à 1 120 000 euros, c'est bien ça, pour 2025.
Alors, il ne nous manque pas 200 000, on modifie les montants à la hauteur de 200 000 euros sur l'année 2025.
D'accord. Alors justement, sur 2025, qu'est-ce qui a été réellement engagé? Parce que ce que l'on voit, c'est essentiellement la destruction du...
Alors, le problème, c'est que vous savez aussi bien que moi,
en construction, c'était gratuit.
Mieux que pour pouvoir démarrer, quel qu'on ait des fonds. Si on n'a pas les fonds, on ne peut pas le démarrer. Or, on avait un programme de démarrage et de travaux à la hauteur de 920 000. On vient de voter un peu plus là pour pouvoir démarrer les travaux plus tôt, puisque effectivement, là, l'appel d'offres a eu lieu. Enfin, après, Jean-Luc n'est pas là, mais derrière, il pourrait mieux vous en parler. Enfin, différents phasages sont un petit peu en avance, et donc il est prévu de démarrer les travaux plus tôt, donc il faut qu'on ait des fonds pour pouvoir effectivement démarrer les travaux.
On appelle une inscription budgétaire.
Alors, moi, j'aimerais qu'on m'explique aussi, donc on voit en 2026, finalement, on garde le même budget, 5 955 000. Par contre, en 2027, là, il y a une baisse donc, que vous avez inscrite, en tout cas, on a une baisse de 980 000 euros. Alors, pourquoi en 2027? Et autrement, on voit en 2029, là, le règlement final, on l'élève à 780 000 euros. Alors, j'aimerais comprendre aussi, tous les deux ans, là, on voit qu'il y a des modifications. Pourquoi?
Alors, là, c'est un prévisionnel, par définition, prévisionnel. La boule de cristal, je ne l'ai pas. On le refait par rapport aux éléments qu'on a à l'heure actuelle. Je pense que, de toute façon, nous serons amenés encore à modifier, effectivement, cet APCP dans le temps. C'est évident, puisque là, les données, je ne vais pas vous voiler, alors je ferai mauvaise foi si je vous le dis, mais il y a un moment ou un autre, ça va bouger. Est-ce qu'en 2026, on ira aussi vite que ce qu'on a prévu? Derrière les aléas, souvent Gérard vous parle de problématiques d'eau usée, d'eau potable, et ainsi de suite. Les événements climatiques font qu'à un moment, vous savez aussi bien que moi, sur des travaux, voilà. Par contre, je ne peux pas faire autrement que d'inscrire, moi personnellement, à mon niveau, d'inscrire les lignes pour pouvoir le faire, parce que si elles arrivent, il faut que je puisse les honorer.
Ce qui est important, c'est le montant final. Enfin, vous avez, je pense que vous l'avez noté, le montant total ne bouge pas, mais c'est le phasage, l'estimation, et le phasage qui a vocation à être modifié, comme son nom l'indique, en fonction des phases. Ça peut s'accélérer, ça peut se ralentir. Et donc aujourd'hui, au-delà de, je dirais, de 2025, c'est un peu, je dirais, voilà, une prévision avec tout ce qu'elle peut avoir de fragile.
Les travaux, justement, puisque pour 2026, on voit que c'est le même montant, sachant que les élections approchent quand même, vous avez prévu, parce que là on est en novembre, on voit que ça n'a pas bougé, vous avez prévu de démarrer les travaux quand exactement là?
Je pense que ça devrait démarrer tout début, fin de l'année, début de l'année prochaine.
Là on va lancer, donc on a ouvert une ligne de crédit pour pouvoir honorer les assurances, qu'on a débloqué les assurances, parce qu'on ne peut pas démarrer les travaux si on n'est pas assuré derrière par rapport aux entreprises qui interviennent. Les premiers travaux vont arriver effectivement sur la fin d'année, et c'est pour ça qu'on a tout simplement modifié un petit peu l'ensemble des choses pour réactualiser par rapport aux données qu'on a actuellement.
D'ailleurs, au niveau des assurances, tout à l'heure, vous nous signaliez, quand on a fait la décision modificative, là, que les assurances étaient de l'ordre de 180 000 euros, c'est ça?
Pour cette première phase, oui.
Ah.
Mais ce sera un peu plus.
Alors, est-ce qu'il y a des votes contre?
De vous dire que, en fait, on a regardé dans votre programme de 2020, vous parliez d'une réhabilitation du musée actuel, des modernisations du musée actuel, mais pas d'une construction d'un nouveau musée. Kantara, alors M. Servet n'est pas là, mais vous avez présenté en copine en 2021 une projection à 26 millions d'euros. Vous avez commencé les travaux en début d'année 2026, à quelques jours ou semaines des élections municipales. Est-ce que vous ne pensez pas que ça sera plutôt au prochain bureau municipal ou au prochain conseil municipal de décider de ces montants-là, et qu'aujourd'hui nous ne pourrons pas arrêter de mettre en suspens ce dossier, qui est plutôt clivant d'ailleurs, et pour le peu qu'on en parle avec les Carnatois, pour l'instant j'ai pas de retour positif de mon côté.
D'accord. Bah, écoutez, la réponse est non. Je pense que, enfin, on a évidemment pas la première fois qu'on évoque ce sujet en conseil municipal. Je pense qu'on l'a évoqué très largement. Il y a eu des idées d'ailleurs, on l'a exprimé, y compris dans notre majorité, divergence sur l'emplacement, sur l'opportunité. C'est pas un dossier qui arrive comme ça à 15 jours des élections municipales. Alors après qu'opportunément, et c'est votre droit, pendant la campagne, vous défendiez une position qui n'est pas la nôtre, voilà, c'était parfaitement légitime et c'est votre droit. Mais non, il n'est pas question, enfin, aujourd'hui les appels d'offres sont lancés, c'est un dossier qui ne peut plus être arrêté.
Justement, ça me fait bien une question. Quelle pénalité au niveau du contrat, justement, si...
Mettre fin à un marché public, là, ça... Enfin, sur un... Enfin, je ne peux pas vous dire précisément, Mme Le Golvan, mais si d'aventure, la prochaine municipalité voulait arrêter les travaux, la pénalité serait de l'ordre de plus de la moitié du montant total.
Donc, monsieur Lejean,
Non. Je n'ai pas la compétence. Désolé.
C'est un ordre de grandeur, évidemment. Je ne vais pas regarder, évidemment. Nous ne souhaitons pas faire ça, et ça n'est pas inscrit dans le contrat, mais oui, ce serait cet ordre-là.
C'est sûrement inscrit dans le contrat.
Non, c'est pas inscrit dans le contrat, parce qu'il y a plein de prestataires, et chacun, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Le rapport est adopté, je vous remercie. Ensuite, on passe à la séquence, monsieur Lejean. Je sais que c'est toujours les larmes aux yeux quand nous passons des émissions à nos valeurs.
Oui, donc 51,59 euros en addition en non-valeur, une partie en restauration scolaire, en atelier découverte et en accueil périscolaire. Pas grand-chose.
On vote, mais malheureusement, nous n'y pouvons rien. Donc imagine que tout le monde vote ce rapport. Merci. Un sujet très gai et entraînant, que peu d'élus, y compris d'ailleurs ceux qui siègent dans la commission, comprennent. d'une extrême complexité. Nous sommes en France, l'approbation du rapport de la CLEP. On n'est pas concerné d'ailleurs, monsieur Lejean, cette fois-ci.
Donc il faut savoir, Carmack, depuis 2014, on a une CLEP qui est toujours la même. Dans ce rapport-là, on n'est pas concerné, c'est tout simplement il y avait une modification sur la commune de Landévent pour la gestion du multi-accueil qui est repris par ACTA TIAR Vugal, et donc automatiquement il y avait un transfert de compétences et de charges derrière. Vous m'entendez souvent parler de ça dans le montage financier que je fais sur la commune. Effectivement, en cas de transfert de charges, je pourrais aussi faire financière qui va avec. Voilà, mais non, ça ne nous concerne pas.
Ouais. Alors, moi j'ai lu le document, moi j'ai trouvé ça plus light, hein, c'était compréhensible. Pas grand chose, en fait.
Ah, non, mais là, c'est juste une petite modification, mais je parlais du concept de CLECT en général.
Ah oui, oui, ça, c'est
là. C'est quelque chose de.
Ce qui est dommage, vous voyez, c'est quand on voit l'évaluation des charges et des produits. Donc, moi, ça m'a interpellée. On parle du bonus territoire, monsieur Lejean, et les produits famille, on n'en parle pas, parce que c'est quand même pour la CLECT. Donc, j'imagine qu'il y a quand même une rentrée en produits. En tout cas, c'est pas noté. Et puis, ils utilisent un acronyme. Alors, j'ai cherché, je ne sais pas du tout. C'est assez retenu sur assez. Alors, là,
c'est la solution de compensation.
Ah. Ouais. Oui, alors pourquoi le budget des familles, c'est pas.
Honnêtement, hein, j'étais invité à la CLEC, j'ai pas pu y aller, j'en faisais partie hein, de la commission, j'ai pas pu y aller pour pouvoir dedans. Maintenant, il y a un service spécifique là, c'est pas mon domaine, c'est le domaine de madame le maire de Lequal. Voilà, bon, chacun son domaine, pas savoir tout. Pas dire autre chose.
Alors, il y a un vote, nous l'entendons avec ça, oui, on approuve. Donc, pas d'abstention, pas de vote contre. De toute façon, nous ne pouvons pas grand-chose. Monsieur Durand, nous commençons l'utilisation d'échanges et diffusion de données numériques et localisées.
Oui, alors c'est une convention d'utilisation avec le WebSIG. WebSIG d'ailleurs qui a été élaboré par la Com2Com, si je ne m'abuse, et puis qui permet aux utilisateurs publics de consulter des données thématiques ainsi que faciliter la gestion publique sur le territoire.
Là, je vous avouerais que j'aimerais avoir un exemple concret parce que je n'ai pas trop compris. Je me suis dit que c'était des échanges, mais par rapport à tout ce qui était urbanisme ou autre, mais, et encore,
Je pense que concrètement, quand l'ACTA travaille sur le SCOT, elle peut avoir besoin d'avoir accès, puisque le SCOT porte sur l'ensemble des territoires des communes d'ACTA. Il est intéressant pour les cabinets d'études, mais également pour les fonctionnaires d'ACTA, d'avoir accès au réseau SIG en matière d'urbanisme de l'ensemble des communes pour avoir un travail plus fin, surtout le faire de manière totalement fluide en ayant directement accès aux bases de données et non pas de faire des échanges par courrier comme on le faisait avant quand il n'y avait pas ces conventions. Donc je pense que ça permet un travail plus fluide, plus facile, plus rapide en donnant accès aux données de chaque commune pour l'intercommunalité.
C'est pire que la
CLEP. Oh non, ça c'est plus simple, parce que ça c'est juste en fait une autorisation de transmettre des données à une autre collectivité. Donc, bon, j'imagine qu'il n'y a pas de vote contre, pas d'abstention. Okay. On passe au rapport suivant, donc c'est une convention opérationnelle d'action foncière avec l'établissement foncier de Bretagne. On est également là dans une entrée de bourg, hein, puisque nous nous situons sur la rue Saint-Cornélie, au 42, et donc un certain nombre de terrains, alors c'est juste à côté du Lidl, je ne sais pas si on a la carte, mais un certain nombre de terrains ont été mis en vente, et la municipalité, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, à savoir une emprise foncière où là il y a une possibilité de faire éventuellement beaucoup de logements, a décidé de tenter de se porter acquéreur de ces terrains. Vous voyez, le rond, c'est le Lidl. D'autant plus que nous l'avions aussi, je l'avais toujours dit, hein, l'hypothèse favorisée par la commune, ce serait que le Lidl reste à cette place dans son avenir, parce que vous savez qu'il il a des souhaits de déménagement, en tout cas de rénovation de cet ensemble. Et donc, pour un objectif évidemment très intéressant pour les communes, on l'a déjà utilisé d'ailleurs pour à d'autres endroits sur la commune, nous avons décidé de faire porter cette acquisition par l'établissement foncier de Bretagne pour permettre évidemment de soulager la trésorerie de la commune. Vous imaginez bien qu'à partir du moment où l'EPF porte cet investissement pendant quelques années, ça soulage les finances de la commune et ça permet aussi de préparer un projet à cet endroit-là, projet qui évidemment comportera un nombre très important de logements. Il ne vous aura pas échappé que le logement est quand même la problématique numéro un de notre commune. Et donc à cet endroit-là, dans un lieu aussi stratégique, je pense qu'on ne pouvait pas laisser passer. Et c'est vrai, Mme Le Blanc, hein, sur ce qui concerne l'autre entrée de bourg, je partageais votre sentiment qu'il y aurait pu peut-être quelque chose à faire par la commune. Après, décider, c'est aussi faire des arbitrages. Et là, par exemple, ben voilà, là, il y avait une opportunité avec quelque chose de beaucoup plus intéressant en termes de droit de l'urbanisme et avec un nombre de logements très important à faire. Et je préfère qu'on investisse là où on peut vraiment, je dirais, avoir un impact majeur en termes de logements plutôt que de le faire, même si l'idée, encore une fois, pouvait être séduisante, c'est bien de faire quelque chose à un endroit où les contraintes étaient beaucoup plus élevées. Et donc, c'est pour ça qu'on vous demande de demander l'intervention de l'établissement public foncier de Bretagne, donc, qui procédera aux acquisitions des parcelles qui sont donc dans ce petit dessin. Et puis, d'autoriser le maire à signer tout document nécessaire à l'exécution de ce rapport et de s'engager à racheter, donc, parce que c'est l'objet aussi, évidemment, pour la commune, de faire aboutir un projet, de faire racheter ces parcelles avant le 30 novembre 2032, date à laquelle la fin du portage s'effectuera. Donc la municipalité, quelle qu'elle soit, aura l'occasion de décider à cet endroit-là. Mais encore une fois, on est vraiment à un endroit stratégique, l'arrivée de Plouarnel, avec des pistes cyclables qui seront aménagées, qui sont prévues à cet endroit, et puis un certain nombre d'infrastructures publiques qui sont aussi dans un rayon très proche, et font de cet endroit quelque chose qu'on ne peut pas laisser passer. Et donc voilà pourquoi nous avons décidé de solliciter l'EPF pour ça.
Alors, pour moi, l'entrée de bourg, elle n'est pas là. Hein. L'entrée de bourg, c'est près de la gendarmerie, pas loin de chez moi, d'ailleurs. Donc, c'est plutôt l'entrée de bourg. Alors, premier constat, c'est que là, en effet, le lieu est stratégique pour... Enfin, en tout cas, ce qu'on va voter tout à l'heure, c'est stratégique pour de la construction. Mais j'aimerais vous poser la question, puisque vous parlez des entrées de bourg et de les rendre attrayantes. Est-ce que vous trouvez que, justement, l'entrée de bourg, là où il y a la gendarmerie, d'avoir donné l'autorisation de faire ce lotissement qui déjà, en ce moment, on ne peut pas dire que ce soit goulayant de passer devant tous ces travaux et de se demander si ça va aboutir, sans doute que oui, mais quand on a toutes ces maisons qui vont se construire juste à l'entrée de bourg, c'est pas très gai.
Madame Lollement, quand vous avez construit votre maison, j'imagine qu'il y a eu une période de travaux. Comme toute maison. Donc là, il y a un projet, on peut penser qu'il n'est pas situé au bon endroit. Je laisserai peut-être M. Durand commenter, mais enfin, le plan local d'urbanisme permettait cette construction. Un permis a été posé, un maire, il faut qu'il y ait une bonne raison pour refuser un permis de construire. Donc à partir du moment où c'est légal, à partir du moment où le règlement d'urbanisme est respecté, malheureusement, il n'y a pas 36 solutions pour s'opposer. Je ne suis pas Donald Trump. Et donc, je respecte scrupuleusement la législation. Alors, il y a toujours des choses, et on se rend compte que peut-être que le règlement devrait être un peu différent. D'ailleurs, c'est pour ça, des fois, qu'on modifie le règlement, parce qu'on se rend compte qu'il y a des trous dans la raquette en termes de présentation ou même de nature de projet. Mais encore une fois, il faut une bonne raison pour refuser un projet. C'est pas simplement une question de couleur ou une question d'avis du maire, aussi pertinent soit-il. Donc, encore une fois, je comprends votre point, mais voilà, il faut une fondation juridique pour refuser ça.
Mais même s'il était constructible et il était vendable, ce terrain, vous avez fait des choix, par exemple, à Carnac Plage, de racheter tout simplement Monsieur Bricolage, vous avez mis 1,4 million, je crois que c'est ça, sur la table. Ce que je veux dire, c'est qu'on parle depuis longtemps de soigner nos entrées de bourg. Peut-être que ça aurait été judicieux, on vient de le dire tout à l'heure, de racheter chez Bréjean, on a eu des échos comme quoi c'était vendu à 600 000 euros. là en face de chez moi. Parce que les carnavals parlent, hein, évidemment, et l'entrée de bourg près de la gendarmerie, c'est pareil, il y a des bruits qui sont juste bons, mais ça faisait presque la même enveloppe que ce que vous avez investi dans le monsieur bricolage, qui doit devenir vraiment un jardin public. On attend, mais ça deviendra sans doute. Donc voilà, tout est une question de choix, et je pense qu'on n'a pas soigné nos entrées de bourg, comme vous le laissez.
Non, mais vous avez raison, l'exercice d'une mandature, c'est faire des choix. On ne peut pas faire tous les choix. On est obligé de faire des arbitrages. Parfois, ces arbitrages peuvent être douloureux, parce que ce n'est pas toujours très simple de choisir. Après, on essaye toujours de réfléchir, d'étudier les dossiers de manière très rationnelle. Et puis, quand on prend une décision, je demande toujours à mes adjoints d'être capable de l'expliquer. Donc, encore une fois, votre position est parfaitement entendable. Après, on fait des choix en fonction des opportunités qui se présentent, en fonction des capacités financières de la commune. Et on essaye modestement de faire les choix qu'on estime être les plus pertinents.
Juste me permets aussi d'intervenir, vous avez parlé du Lidl tout à l'heure. Dans la délibération, il y a une possibilité de faire racheter par un tiers, parce que le tiers, ça peut être le Lidl, à cet emplacement.
Ça peut être n'importe qui, mais c'est pas l'objectif. Non. L'objectif, c'est d'avoir, si un jour on pouvait trouver l'emprise suffisante, l'objectif, ce serait un programme qui serait piloté par la commune, dans lequel on aurait peut-être un Lidl en rez-de-chaussée avec des logements autour et pourquoi pas au-dessus. C'est plutôt ça.
Cette réflexion n'est pas dénuée de sens.
Ben, c'est comme je vous le disais, on essaye de réfléchir et si on ne prend pas toujours des décisions qui vous conviennent, encore une fois, c'est des arbitrages. En fonction de nos capacités d'investissement, on essaye de choisir ce qui est le plus pertinent pour la commune.
Sur le fond, on est d'accord avec ce projet, mais il y a une phrase qui nous gêne un petit peu. Il est proposé au conseil municipal de s'engager à racheter. C'est la commune qui doit racheter, c'est pas nous, conseillers municipaux, qui devons racheter. Donc, dans la formulation.
Justement, j'avais besoin de ta carte bancaire, Yann, pour un truc à te demander.
Mais plus sérieusement, dans la formulation.
Oui, bien sûr, Yann. C'est la commune, c'est pas le conseil municipal.
Oui, mais là, peut-être que c'est écrit, c'est un peu. Non,
on modifiera.
Est-ce que c'est ce conseil municipal
ou ces
conseillers-là qui vont payer? Mais c'est bien. J'ai peur que je ne sais pas. Dans...
Ok.
Bah, remarquez ma question par rapport à ça. Je regarde les administratifs, mais est-ce qu'on peut voter un bordereau de cette manière-là ou il faut qu'il soit modifié avant qu'on ne le vote?
Enfin, il y a deux solutions. On peut même le voter tel qu'il est, ce qui ne pose pas de problème. Ou on peut vous dire que, voilà, au moment de l'envoyer en préfecture, on mettra la commune de Carnac à la place de mettre le conseil municipal.
Bien sûr,
voilà.
Sans problème.
Ça vous va?
Je corrige.
On est. Non, mais enfin bon.
Mais c'est des gestes de l'idée.
Je crois que c'est Voltaire.
C'est sans problème, je veux bien, mais. Je crois. Enfin, si ça pose pas de problème pour la corriger et la rendre réelle, meilleure, il n'y a pas de sujet, il n'y a aucun problème. D'accord. Sur le fond, il n'y a pas de problème. C'est de la forme qui, effectivement, vous avez raison, il y a une erreur.
Donc faites-nous confiance, comme on le fait à chaque fois, on respecte les votes du conseil municipal. Alors, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Monsieur Guimard, il y a 40 pages de conseil municipal, de temps en temps il y a peut-être une petite erreur de syntaxe ou un chiffre qui est mal placé, ça arrive dans toutes les communes. Là, j'aime bien Voltaire qui disait on pèse des œufs de mouche dans les toits d'araignée, on est un peu là quand même. Enfin, vous savez très bien que ce n'est pas les conseillers municipaux qui vont acheter ça. Ouais. Je pense qu'il y avait un peu d'ironie dans votre remarque.
Tout à fait.
Voilà. Donc on ne va pas passer plus de temps là-dessus, parce que je pense que ça ne le nécessite pas. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie, unanimité. Monsieur Durand, des affections et des classements d'une parcelle communale. Avenue d'Orient.
Oui. Oui, Avenue d'Orient, si on peut...
Il y a quatre rapports qui concernent la même question, en fait.
Voilà. En fait, oui, ce que je voulais dire, c'est la place Franck-Carrie. Donc, ça va traiter la 13, la 14, la 15 et la 16 va concerner exactement ce terrain. Donc ce terrain, c'est propriété communale, est situé, vous voyez, à Bulle-Orient, à côté de la résidence de Beauvert, face au terrain qui est en zone humide. C'est un terrain qui fait à peu près 818 mètres carrés, je crois. Et se sont manifestés deux propriétaires. Les deux propriétaires sont situés au sud. Je ne vois pas bien les chiffres là, mais enfin, vous voyez, les deux maisons, les deux plus grandes maisons, sont situées directement au sud du terrain. Si on peut le baisser. Donc, ces propriétaires veulent, comment dirais-je, acheter ces terrains. Le terrain étant propriété de la commune, on est obligé de faire une désaffectation, d'une part, et une désaffectation du terrain, de façon à le sortir du domaine public communal, de façon qu'il soit intégré dans le domaine privé communal. Ok ? Donc, il y a quelque chose de spécial, non ? Vous avez quelque chose ? Donc, on continue sur la 13 ou pas ? Sur la 14 ou pas ?
Oui,
ça concerne tout. Donc, le premier bordereau, il va concerner la désaffectation et le déclassement. Le deuxième, il va y avoir un permis d'aménager qui va être, déposé pour séparer cette parcelle de 818 mètres carrés en deux terrains, un de 441 et 361. Ok, donc c'est toujours les propriétaires derrière. Après, il va y avoir la cession de la parcelle, donc 426, celle qui est le plus au nord, me semble-t-il, qui va être donc vendue à monsieur et madame Poureau, qui sont les propriétaires à l'arrière, et donc l'autre parcelle va être vendue à monsieur Hamel, qui est également propriétaire juste au sud, comme on a vu tout à l'heure.
Peut-être préciser le montant, M. Durand, 900 euros le mètre carré.
Oui, alors le montant.
Alors que l'estimation des domaines était à 700.
Oui, le montant.
La commune n'est pas lésée.
Vous donnez des éléments. Hein.
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, M. Guimard, on essaye toujours de maximiser l'intérêt financier de la commune.
N'allez pas plus loin. On va voir tout juste après.
Mais juste après, on verra aussi, il n'y a aucun problème. Alors, sur ces quatre rapports, est-ce qu'il y a des questions ?
C'est très bien, je vais la prendre. On a des terrains qui sont communaux, on est bien d'accord.
Ouais.
Oui. Ils sont très bien situés à Carré. Oui, ils appartiennent, ils ne nous coûtent rien aujourd'hui.
Si, bah, si ouais, vous avez une coûte de l'entretien quand même, tous les gens.
L'entretien de ton parent, admettons. Pourquoi vous vendez ces terrains ? Et pourquoi, puisqu'on les a et qu'il existe des systèmes type PRS, on n'utilise pas ce système-là, pour les laisser à des carrefours, on les oblige à ce qu'on soit des résidences secondes principales, résidence principale à cet endroit-là.
Pour une raison très simple, qui est la raison que je vous ai expliquée tout à l'heure, ces terrains sont très limités en matière de constructibilité, ils sont tout petits, et qu'il vaut mieux investir, comme on le fait dans le rapport précédent, sur un terrain où on pouvait faire 80 logements, 90 logements pour les carnavalois, plutôt que d'utiliser cet argent, parce que c'est encore 900 euros le mètre carré, donc ça fait 400 000 euros, dans l'acquisition de terrains sur lesquels vous pouvez avoir un impact. Parce que là, c'est du saupoudrage si on fait du logement social dans des communes comme dans des terrains comme ça. Donc encore une fois, effectivement, on peut dire, ils vendent du terrain communal. Mais si on a fait autant de BRS à Bellevue, c'est justement parce que on a procédé à un certain nombre de cessions de terrains qui étaient peu utilisables en matière d'intérêt général et de service public, dont on a tiré des revenus pour investir ailleurs, pour avoir un impact. Bellane, Bellevue, l'Intermarché, et puis ce qu'on vient de voter là à l'instant, ça c'est des choses où on pourra avoir un impact sur la commune. Parce que là, vous allez loger deux familles. Moi, on n'a pas besoin de loger deux familles, on a besoin de loger 100 familles. Et donc, c'est simplement une utilisation rationnelle du patrimoine communal, de le céder quand il est peu utile aux problématiques de la commune, et Dieu sait si on a des problématiques aiguës de logement, et dans ce cas-là, on récupère de l'argent pour faire des choses qui ont un impact beaucoup plus puissant. Voilà la raison.
Ok, ça c'est votre vision des choses.
Et il la défend, hein. Si c'était pas la mienne, ça m'embêtant.
Très bien, d'ailleurs, pardon. Vous venez de nous dire que les domaines l'ont évalué à 700 euros le mètre carré à cet endroit-là,
ouais.
Et que vous le vendez 900 euros.
Ouais.
On est rapidement à presque 30% de plus, oui, que l'évaluation des domaines.
Oui.
Je croyais qu'on avait une marge de
15%. Non,
à la baisse.
Et encore, Monsieur Guimard, vous avez bien compris que l'estimation des domaines, vous voyez à quoi elle sert. Elle sert à surtout à qu'on ne dilapide pas les intérêts du contribuable carnacois et l'argent de la commune. Donc en fait, l'estimation des domaines, elle sert surtout à éviter que des communes, des maires, des adjoints, des conseillers municipaux, enfin, ils n'ont pas ce pouvoir tout seul, vendent des terrains à un vil prix à quelqu'un qui serait un ami. Donc, cette marge de 15%, elle est surtout liée à la baisse. C'est-à-dire que si, par exemple, l'estimation du domaine était 700 euros et que là, on vendait ces terrains 400, il y aura un problème, puisqu'on ne maximise pas l'intérêt communal. Là, à la hausse, à partir du moment où les domaines qui ne sont pas toujours très compétents, d'ailleurs, parce que vous savez comment ça fonctionne, les domaines, hein, d'abord pour les faire venir, il faut 3 mois, et ensuite, leur avis n'est pas toujours très pointu vis-à-vis du marché. Donc là, simplement, nous, on a eu l'avis des domaines, on a considéré, compte tenu du marché, que ces terrains valaient plus. On a dit aux propriétaires, bah, vous êtes, enfin, futurs propriétaires, on a dit, vous nous sollicitez pour les acheter, vous êtes intéressés, le prix, c'est 900. Et donc, on a maximisé l'intérêt du contribuable carnavore. Je ne vois pas ce qu'on peut nous reprocher là-dessus.
Alors, justement, vous privilégiez l'intérêt des carnavores. Si on traverse la zone humide, on arrive sur les terrains qu'on a vendus il y a 4-5 ans maintenant, qui ont permis de l'agrandissement qui est à la plage, donc on a vendu les Guimonts, il y avait à peu près 4100 m², dont une zone humide de 700 et quelques, donc on avait 3200 m² de constructibles. Donc là, les 3200, je ne prends que les 3200 m² constructibles, on les a vendus 920 000 euros, à peu près 250 euros du mètre carré. Vous êtes en train de m'expliquer que là, vous avez un niveau des domaines, augmenté le prix. Qu'est-ce qui fait une telle différence? Alors, le marché foncier, ça a pris de la valeur, mais là, c'est pratiquement plus de trois fois le prix de ce qui a été payé par...
Le prix a été proposé par les acquéreurs. On n'allait pas contre. Ça, c'est pour faire la première des choses. À partir de là, vous voyez très bien où c'est. Et pour comparer par rapport à, effectivement, au Super U, on ne pouvait pas comparer deux choses, qui est une activité économique, commerciale, derrière un entrepôt, parce que c'était un entrepôt qui faisait... Et un peu aussi derrière, avec tous les échanges qu'on a pu avoir entre la mairie et le propriétaire, par rapport à l'endroit, pour les raisons XY, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, ça c'est autre chose. Hein. Donc, derrière, sur les Guémons. Les Guémons, ils ont été aussi évalués par les domaines, parce qu'on ne peut rien faire sans aucune évaluation par les domaines. Systématiquement, on fait évaluer par les domaines. Alors après, on est d'accord ou pas d'accord avec eux, ils sont dans le prix ou pas dans le prix, c'est l'éternel problème. Hein. Mais l'objectif a toujours été de se dire, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur Monsieur Bricolage et sur les Guémons, il y a eu aussi derrière une réalisation, et c'était relativement complexe comme dossier, je peux vous le dire, pour trouver un équilibre en termes d'implantation, un équilibre aussi en termes financiers pour la collectivité, un équilibre surtout. Alors après, vous pourrez toujours reprocher, dire que c'était pas bien, c'était pas le bon choix, oui, possible. Voilà, ceci dit, moi qui suis allé défendre le dossier, qui était quand même pas simple à ce moment-là, on en était relativement content. Après, il faut savoir autre chose, je reviens, je suis désolé Olivier, sur ce bricolage, il y avait aussi, on a fini par, excusez-moi, je vais utiliser peut-être un terme, mais je respecte M. Doriel à ce niveau-là, tendre un peu le bras à M. Doriel, parce que c'était quand même pas simple, qui a fini par dire oui, avec la seule contrainte qui nous a effectivement, et j'étais là-dessus, on était plutôt assez d'accord qu'il n'y ait pas une activité commerciale, puisque s'il y en a une à la place de M. Bricolage, je pense que ce soit lui qui la fasse, puisque les bâtiments lui appartenaient. Ce qui est tout à fait logique derrière. Et le but, c'était d'avoir un équipement qui serve à la collectivité, à l'ensemble des Carnacois. Voilà. Alors, pour l'instant, on est parti sur une logique de part, parce qu'il y avait un part qui est de vouloir peut-être retrouver certaines choses qu'il y avait dans le temps, qui a pu être remettre à terme et trouver des choses aussi sur les deux roues. On est en train de travailler dessus. Hein. Pour l'instant, vous y participerez hein, derrière à définir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a besoin, et ainsi de suite. Mais c'est vrai que l'idée était plutôt dans l'esprit d'un poumon vert.
Je souhaiterais quand même qu'on reste sur ce rapport, hein, puisque en fait. aujourd'hui, encore une fois, on maximise plutôt l'intérêt de la commune. Et donc, il y a eu des ventes qui ont été faites dans le passé, à d'autres prix, c'est clair, mais vous savez très bien que le marché de l'immobilier, il est lié à, je dirais, une économie globale et au prix du foncier global, il est aussi lié à des situations particulières, avec la possibilité de, et la nature de l'infrastructure qui est construite sur un terrain, et tout bouge, évidemment. Et dans le cas de M. Doriel, les domaines avaient fait une estimation, et on était parfaitement dans les clous.
Non, c'est ce qui est assez drôle chez vous, c'est que quand ça vous arrange, c'est vrai que vous les arrangez. Tout à l'heure, vous avez dit, vous avez repris M. Guimard en lui disant, mais c'est 15% à la baisse, mais à la hausse, on peut plus. Et à l'époque, on savait que ça se vendait déjà plus cher. Donc, bon, en effet, c'est juste pour faire le rapport et
ça n'engage que vous, ce genre de propos, Mme Goldman.
Mais en tout cas, je vais juste vous montrer quand même qu'on aurait pu faire tout ce qu'a dit M. Lejean, en tout cas, à cet endroit.
Mais je crois que vous étiez favorable au déménagement du Super-U à Montauban, en plus.
Oui, voilà.
Mais regardez ce qu'on a fait à Bellevue, le dossier Bellevue. Pardon. Le dossier Bellevue-Bellam, puisque c'est un dossier qui est quand même qui traîne depuis les années 2005. Voilà, et était compliqué. Il y a un moment, que ce soit vous ou nous, hein, c'est pas la question de l'un ou l'autre, hein, c'est pas grave, hein, c'était le dossier était mort. On a là aussi pareil, Olivier pourra reprendre la parole après derrière, sur le dossier on s'est battu. Et à un moment on a dit bon, on va essayer de trouver une solution, on s'est battu, il y a des gens dans la salle qui sont là et qui ont participé, donc que je remercie d'ailleurs, ça n'a pas été simple, on a trouvé des solutions. Une fois qu'on a trouvé ces solutions-là, on est arrivé sur un coup. Le coup, il était déficitaire. En vanon, Pascal, on ne pourra jamais y aller, ça coûte trop cher, ainsi de suite d'ici. Je suis 200% d'accord avec vous. On a un problème de logement, il faut qu'on s'améliore. Et avec ACTA, on a travaillé, et Olivier a été le premier à forcer la main au président Philippe Leray lorsqu'il y a eu le pacte fiscal et de solidarité, en disant on doit réimputer 40% au minimum du montant qui a été levé sur du logement sur notre territoire, autrement c'est mort, autrement Carnac ne participera pas. D'accord ? Ça c'est Olivier. J'ai suivi. Pas de problème, et le président l'a suivi. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous permet d'avoir fait des BRS et effectivement. Alors, vous, on ne le voit pas à l'instant T parce que c'est tout nouveau et ainsi de suite, et la mécanique administrative française, vous savez aussi bien que moi, elle est très longue, mais on est dedans. Avec Sylvie et Michel, on a travaillé sur Bellevue il y a un moment quand on était avec Morbihan Habitat qui vient et qui nous dit ah ben non, là, le déficit des cata-cata, qui dit si, on met des BRS, on met des BRS. Un BRS sur Bellevue, c'est 100 000 euros de déficit. Et j'ai dit, on y va. On dit Pascal, Olivier me dit, on ne va jamais suivre. Je dis, si, on va suivre. Et on va le faire, et financièrement, on tient la route. Et moi, je vais vous monter le dossier financier dessus pour pouvoir le faire. Et on l'a fait. D'accord ? Comme on le fera sur Bellevue, comme on le fera sur Intermarché, comme si on peut le faire, pareil, avec Michel, travailler pour pouvoir avancer sur Lidl. Mais c'est pareil, vous nous demandez des fois qu'on s'engage. C'est pas nous qui avons la main, donc c'est difficile. Oui, sur le fond, vous avez raison. On peut vous dire le contraire. D'accord ? Maintenant, on ne peut pas vous répondre, mais effectivement, on va essayer d'aller dans ce sens-là. Et on essaie, je peux vous dire, sur ces dossiers-là, ça fait 11 ans, 12 ans maintenant, être à la mairie, que je suis ce dossier-là, et qu'on essaye d'y aller, parce que la meilleure des solutions, elle est là. Mais c'est pas facile. Oui, peut-être que Bréjean, tout à l'heure, ce que vous dites, je vais pas vous dire le contraire, ça serait. Mais personne dira le contraire. Sur le fond, vous avez raison. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas arrivé au moment où on s'est engagé sur autre chose. Et à un moment, ben, je suis désolé, mais je vais fabriquer parler de l'art du boudin.
C'est pour ça qu'on vend un peu de patrimoine
Pour équilibrer, tout à fait. Bah, c'est une entrée de sortie pour pouvoir retrouver à un moment un juste équilibre.
Ah, oui.
J'essaye, oui.
Il y a un permis sur cette parcelle. Pourquoi un permis d'aménager ?
Le Golban, d'abord ça a été exprimé. C'est pour séparer les deux trucs, c'est tout. C'est pas un aménagement, c'est pas un permis construire.
D'accord. Non, mais
parce qu'on est en avare, et obligatoirement, la vente d'un lot implique un permis d'aménager quand il y a plus d'un lot. Obligatoirement en avare.
D'accord. Mais
à préciser également, une chose qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que. C'est le terrain, je ne vous en ai pas parlé, je pensais que vous alliez le voir dans la feuille numéro 14, ce sont deux terrains qui sont frappés par le PPRN. Et ça va drôlement augmenter le coût de construction parce que à cet endroit-là, ils sont non pas frappés à 3,70 m de la côte NGF, ils sont à 4,75 m.
Ah, d'ailleurs, s'ils choisissent de construire, parce qu'ils peuvent très bien faire un fond de jardin. Hein,
tout à fait. À un moment, c'était ça, c'était un fond de jardin, c'était pour avoir du terrain. Puis finalement, ils ont dit peut-être qu'on ferait une construction. On a reçu les architectes ce matin. Ils servent vraiment un gros souci de construction, de coût de la construction, parce que je vous dis franchement, à côté d'une zone humide, en zone de submersion. 1,50 m qu'il va falloir monter au-dessus du sol, du niveau zéro actuel, ce qui est énorme.
Donc c'est pour ça aussi que voilà, c'est pas parce que ce sont simplement des terrains communaux dont on peut dire ah bah c'est dommage. En fait, il y a beaucoup de contraintes et il vaut mieux investir ailleurs 1 €, ce sera beaucoup plus efficace que de le faire là.
Alors, toutes les divisions parcellaires qui sont faites, ils déposent un permis d'aménager parcelle aussi
en AVAP.
En AVAP, oui.
Oui, on fait un permis d'aménager, ça sera la deuxième phase. Oui, permis d'aménager obligatoire.
Ça passe en commission de travaux, en commission
urbain.
Ça passe en commission urbain.
Oui.
Bon, je vous propose, on a eu un débat, voilà, encore une fois, c'est une question d'arbitrage, de tempo, de moment où les choses se présentent, et encore une fois, notre objectif, c'est de maximiser l'utilisation de l'argent public. Alors, je vous propose de voter, puisque c'est quatre rapports d'un coup, puisque de toute façon, ils portent sur le même sujet. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Le rapport est adopté, je vous remercie. On passe à la session d'un bâtiment communal, à l'occurrence, le presbytère, monsieur Lejean.
Oui, alors, aujourd'hui, vous savez que le presbytère se trouve au bout de la rue. Je vais pas refaire tout l'historique parce qu'il serait un peu compliqué.
Peut-être la pour un peu faire, non voilà. Je pense qu'on sera parti sur une longue soirée.
Non. Peut-être un petit livre, juste parce que c'est quand même important pour mieux comprendre après toute la philosophie sur laquelle on est arrivé. Je te laisse la main.
Ouais. Enfin, je précise quand même que j'étais pas élu à cette époque-là. Hein. J'ai commencé il y a longtemps, mais quand même. Je crois que c'était dans les années 75, 78, 79 à peu près, où pour les plus anciens, ceux qui étaient très jeunes à l'époque, le presbytère se trouvait dans le bâtiment de l'actuel musée. Et quand la commune a estimé pertinent de déplacer le musée de l'époque, qui était un tout petit bâtiment un peu plus loin, et lui donner l'ampleur qu'il a pu connaître, qui a été inauguré en 1985. Il y a eu un accord global qui a été passé avec le diocèse, qui est propriétaire des bâtiments de culte ou qui sont liés à l'exercice du culte. L'accord était le suivant, alors j'en connais pas les détails, mais enfin si ça vous intéresse, on pourra les fouiller dans les archives. La commune récupérait le bâtiment presbytère, qui datait, je crois très bien, du 19e siècle probablement, et qui était très grand. Il y a une époque ici à Carnac, il y avait beaucoup de prêtres et d'employés de la paroisse, et en contrepartie, fournissait au clergé local un bâtiment dont il restait propriétaire et qui a l'usage de presbytère. On a hérité ce bâtiment, hein, c'est ce qui est précisé dans la pion, et donc voilà, et l'accord était simplement celui-là, c'était, il y avait une contrepartie au fait que, je ne sais pas exactement dans quelles conditions, mais on a récupéré le bâtiment qui est devenu musée dans des conditions très favorables. Voilà. Je suis pas sûr qu'il faille aller plus loin.
Non.
Et donc aujourd'hui, donc on a construit effectivement le presbytère rue Colary et le diocèse s'est rapproché de nous en se posant la question de pouvoir effectivement racheter ce bâtiment. À partir de là, il y a eu effectivement une négociation qui a été faite avec le diocèse, donc les responsables financiers du diocèse qui sont venus. Je suis à peu près, ça fait 18 mois hein, qu'on est sur le dossier, pour estimer la valeur du bâtiment, ainsi de suite. Il faut savoir que ce bâtiment a été construit sur le terrain de Madame Erdeven, qui avait vendu effectivement le terrain à la mairie de Carnac, qui d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, le terrain de la mairie était aussi Madame Erdeven, ce
si je dis, si je dis pas de bêtises. Hein,
non,
j'ai dit une bêtise. Bon, j'ai dit une bêtise alors.
C'était
pour
moi.
On ne voit pas la mairie. Alors, j'ai pas dit comment
on va se réveiller. Sylvie n'était pas conseillère municipale à l'époque, mais quand même, elle se souvient.
Voilà, et donc, il a été construit, effectivement, ce bâtiment sur le terrain qui a été vendu par Madame R. Devel pour en faire un presbytère. Et donc, c'est enregistré, effectivement, en tant que presbytère. Et donc,
cette remarque est importante, c'est-à-dire qu'il y a une destination qui est le presbytère. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas en faire autre chose qu'un presbytère. C'est pour ça qu'au niveau de la valeur, c'est quasiment pas vendable.
Possession des domaines qui sont venus, effectivement, pour évaluer le bâtiment. On a fait faire, effectivement, une estimation à côté pour avoir une idée derrière, et le diocèse nous en proposait un prix. Alors là, on était très loin. Hein, ils étaient sur une base de 700 000, quand nous, on était sur une base de 1,2 million. Donc, effectivement, j'ai pas cédé. Voilà, et il y a eu une négociation qui a duré une petite année pour arriver, effectivement, à la valeur que vous avez, qu'on vous propose aujourd'hui à 1,5 million. Effectivement, on a tenu compte de la contrainte du presbytère que c'est un bâtiment dédié à une activité bien spécifique derrière, et donc sur la base d'1,5 million. Maintenant, tout ce que vous avez dit tout à l'heure, Olivier, est quand même important, parce que si on prend que brut de décoffrage comme ça, et on se dit, vu la grandeur du bâtiment, vu le placé où c'est, vu ce qu'on a passé avant, comment se fait-il que... Oui. Effectivement, oui. Maintenant, il faut remettre, à chaque fois, nous sommes amenés à prendre position avec l'environnement de bon sens dans lequel on évolue. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire, je vais vendre un terrain, effectivement, à Nuit d'Orient, comme on l'a vu tout à l'heure, au prix, dire, bah oui, c'est quand même, on peut estimer que c'est bien vendu, et ainsi de suite, et de se dire qu'on a vendu les Gouémont à côté, comme tu fais la remarque, Janine, pas au même prix, mais il y a une explication, il faut remettre dans le contexte, et le bâtiment du diocèse. Lorsqu'on a récupéré le presbytère ou qu'on a mis le musée derrière, il y a eu un deal, parce que effectivement, on a construit ce presbytère-là, rue Collary, avec un loyer complètement minime. Mais c'était le deal parce qu'on récupérait un bâtiment à côté, qui appartient à la commune. On dit, est-ce que c'était ça qu'il fallait faire ? Moi, j'y étais pas. C'est fait, de toute façon, après on fait avec. Hein, et on gère. Donc, si vous voulez, il y a un moment, vous dites, j'ai quand même un presbytère qui est à la mairie, ou j'ai le diocèse qui se pose la question de se dire, ça serait peut-être bien que ça nous appartienne au lieu de dépendre des communes, puisque je vous rappelle, hein, le problème, il existe dans toutes les communes du Morbihan, mais entre autres sur le littoral, parce que j'ai le même problème à Erdeven, le maire de Erdeven m'a appelé pour me demander comment je faisais, et ainsi de suite. Hein. Donc la problématique, elle est partout pareille. Effectivement, on a l'avantage d'avoir une paroisse qui peut se permettre d'envisager de reprendre son presbytère. Oui, parce qu'il y a aussi chez eux, ils ont aussi quand même une donnée économique à gérer derrière. Et nous, si vous voulez, on a un coût aujourd'hui qui était quand même un peu surprenant. Quoi.
Je dirais même que l'intérêt de la commune, il est aigu dans le dossier, parce que on avait quand même un loyer de 500 euros pour un bâtiment qui est quand même assez gigantesque. On avait l'obligation annuelle, hein, 500 euros annuels. On avait donc il y avait cette destination, c'est-à-dire que évidemment, enfin, on n'avait pas, mais on ne pouvait pas le vendre à quelqu'un qui allait faire sa maison ou même faire quelque chose, puisque c'est y a une obligation de destination, donc on ne peut vendre qu'à la paroisse ou au diocèse, et que par ailleurs, le bâtiment vieillissant, et tu l'as noté Yann tout à l'heure, il y avait des coûts d'entretien qui étaient de plus en plus élevés, et que quand on fait la colonne des recettes et la colonne des dépenses, c'était quelque chose qui coûtait très très cher à la commune. Et donc, aujourd'hui, ne pas accepter cette sollicitation, je pense louper une occasion unique. Et puis, par ailleurs, enfin, voilà, il y a d'autres aspects qui sont que voilà, chacun chez soi, ça me paraît aussi une très bonne chose. Que la commune soit propriétaire du presbytère, c'est pas non plus dans la
logique. Non, en fait, ce que j'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que tout ça vient des conséquences de la loi de 1905, séparation de l'Église et de l'État. Et qu'en 1905, la commune, par la loi, a... entre guillemets, hérité de ce qu'était le presbytère à l'époque. Donc on est devenu propriétaire de ce bâtiment qui était à usage de presbytère, et donc quand on a voulu changer son usage, il fallait un accord avec l'affectataire que prévoyait la loi, qui était la paroisse. Et pour nous, communes, c'était quand même une très bonne affaire d'avoir un bâtiment dont la surface, chacun peut le voir en visitant le musée, est extrêmement importante. Et en contrepartie, on a construit quelque chose qui était beaucoup moins lent. Et du coup, on a accordé un loyer très faible. Et le bâtiment, il a bientôt 50 ans. Enfin, il a plus de 50 ans. Il est dans ces eaux-là. Et donc, forcément, beaucoup de réparations à faire. Donc, économiquement, ça n'y a pas de doute. Au total, on pourrait faire un calcul, on s'y retrouve. Et c'est vrai qu'il y a plutôt des communes où les paroisses ont tendance à se... Au contraire, à essayer de pousser les communes à entretenir les biens d'église qui a moins d'argent qu'autrefois. Pour une fois qu'ils nous proposent d'acheter, je pense qu'il n'y a aucun doute à avoir.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce rapport,
monsieur? Oui, Villard, une remarque. Alors, vous avez été parfait, monsieur Le Jour, sur ce coup-là, puisque les questions, vous avez répondu.
Pourquoi sur les autres, il n'est pas parfait?
Ah, bravo, Bastien.
Pour une fois,
c'est bien. Il pleut.
Peut-être.
La pyramide.
Pardon, monsieur Bucard, vous avez.
Un point partout.
Non, là, c'est trop. Malgré tout, on est à 1,5 million, effectivement. Soit au prix du terrain uniquement, on ne tient pas compte du bâtiment, j'entends l'aspect de la vie. Ensuite,
mais si tu veux nous faire une offre à 1,3 million, Yann, pourquoi pas, hein. Mais bon,
on va la relouer à 500 euros.
On va la relouer au diocèse 500 euros par an.
Voilà.
Alors,
c'est ça, je suis pas curieux.
Oui, mais bon, il vient pas loin de la proposition.
Ensuite, ensuite, 1,2 million, même si ça reste bas, j'entends bien la négociation et les difficultés, malgré tout, je pense réellement que c'est très très bas par rapport au bâtiment et au terrain en sait. Ensuite, il n'y aura pas de division parcellaire, j'imagine, sur le terrain.
Donc
voilà, notre avis, c'est que j'entends vos arguments, mais pour nous, c'est vraiment très bas en termes de...
Moi, je suis désolé, Yann, c'est pour ça qu'il était important que Olivier intervienne, et je voulais qu'il intervienne, parce que c'est un ensemble. Tu ne peux pas juger que le bâtiment, à cet endroit-là, à cette époque-ci, à ce moment-là, maintenant...
Avec les contraintes urbanistiques.
Si, derrière, on n'a pas tenu compte de tout ce qu'il y a eu comme arrangement, accord... Avant, j'y étais pas. Hein. Voilà. Alors après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, ça c'est autre chose. Hein. Mais ce qui est fait est fait, et puis on assume derrière.
Bon, et par ailleurs, nous respectons totalement la loi.
Mais même, si vous permettez, même si on oublie tout l'historique, pour une fois l'historique, rien que par l'historique, c'est justifié. Mais même si on oublie l'historique, considérez, vous êtes propriétaire d'un immeuble qui vous rapporte 500 euros par an et qui forcément, à 50 ans d'âge, vous coûte beaucoup en entretien. Vous avez un acheteur qui vient vous proposer 1,5 million. Pourquoi vous ne vendriez pas? Enfin, ne pas vendre, de toute façon, personne d'autre ne peut l'acheter. Donc là, pour le coup, pour reprendre ce que disait M. le maire tout à l'heure, c'est du bon arbitrage des deniers publics. On récupère 1,5 million qu'on va pouvoir investir sur d'autres programmes qui seront des programmes de logement et qui seront utiles directement au Carnacois. Sinon, personne ne peut l'acheter. Si vous avez le choix entre 1,5 million ou rien.
Des coûts. Pas avoir cédé à 750.
Ah, exactement.
Alors, justement, on n'en est pas loin.
Mais bien sûr, madame la ministre, on ne jamais empêché de
vous. Oh, vous avez toujours demandé la parole.
Ah, ça, c'est vrai.
La parole.
Mais depuis le début de ce conseil, personne n'a demandé.
Qu'est-ce que je veux dire? Tout à l'heure, j'ai posé une question où vous m'avez répondu, monsieur le maire, que les travaux avaient coûté 222 €. D'accord.
J'ai ça de mémoire, je sais. Sous le contrôle du grand
chef d'église. C'est sur les 2-3 dernières années, donc on a donné.
Non. Les 222 000 euros, c'est sur les 12 ans de notre mandat. Je vais être clair parce que c'est les données que j'ai. Dedans, il y a y compris les huisseries. D'accord. Et effectivement, il y a aussi dedans un deal qu'il faut quand même. Et vous l'avez entendu, vous l'avez eu aussi. Derrière, je vous rappelle la chapelle de la congrégation qui a été désacralisée à notre demande, voilà, sur lequel qu'on a approuvé, et que derrière monsieur le père Dominique a demandé effectivement d'avoir un aménagement dans le garage qu'il avait au presbytère et qui lui avait été accordé pour la
à une époque où la session n'était pas du tout dans le lecture, hein, c'est après qu'ils sont venus nous voir.
Oui, la session.
Mais quel est votre point, madame Goldman?
En fait, ce que je veux dire, c'est que là, 222 000 euros, donc c'est quand même les trois dernières années où on a fait le plus de travaux parce qu'on a sorti quand même pas mal de gros chèques. Si je fais simplement les. J'ai rajouté, moi j'ai pris vos 222 000 euros que j'ai déduit des 1,5 million, vous voyez, ils n'étaient pas si loin. C'est, ça nous fait 828 000 euros.
Non, mais là,
plus
C'est de la. Non, mais ça, c'est.
Vous ne pouvez pas prendre les 222 000 euros parce qu'il y a des montants qui existent depuis longtemps, entre autres tout ce qui a été refait sur les premières années. Par contre, si vous dites ça, oui, mais il ne faut pas rêver. Ça a été l'une des parties intégrées de la négociation depuis 18 mois. Mais par contre, ce n'est pas pourquoi je suis arrivé
à
50, je vais vous le dire, sans problème, parce que derrière, ils m'ont demandé de refaire 130 000 euros de chiffres de travaux qui sont. Qui était donc une partie qui avait déjà été votée avant, qui sont les 50 000 euros que je vous ai parlé pour la chapelle, la congrégation et ainsi de suite. Donc, si vous préférez les 80 000 que j'ai rajouté derrière, et vous arrivez à 250.
De toute façon,
je vous l'arrondis, hein. Je vous l'arrondis.
De toute façon, madame Le Gallant, c'est vos calculs sont spécieux pour une bonne et simple raison, c'est que quand vous avez une toiture qui fuit, quand vous avez une salle de bain ou une baignoire qui fuit, et que vous êtes propriétaire, vous êtes tenu de faire des travaux. Donc on n'a pas fait des travaux de confort pour le père Dominique, on a fait des travaux qui étaient absolus. Mais non, mais de
les salles de bain, c'était pas du confort.
Non, c'était pas du confort, non.
Ah bah, allez les voir.
Vous l'avez vu, les salles de bain.
Vous le connaissiez, les salles de bain?
Allez les voir.
Si tu connaissais.
Bah donc, alors, madame Le Golvent, ne parlez pas de. Ne faites pas des insinuations aussi sérieuses sur des choses que vous n'avez jamais eues. Elles avaient 50 ans, elles étaient en état catastrophique. Et les baignoires fuyaient sous les étages en dessous. Donc, on n'a pas fait des travaux de confort. Et c'est pas correct de nous accuser de l'avoir fait. Parce que, surtout, c'est pas correct parce que vous ne connaissiez pas l'état de ces salles de bain. Donc, ne dites pas ça. C'est pas correct. Si vous les aviez vues et qu'on avait fait quelque chose de somptueux. J'aurais dit, bon, bah écoutez, pourquoi pas. Vous ne les avez pas vus, donc là, c'est des accusations sans aucune fondation sérieuse. On arrête là, parce que je pense que franchement, on est hors sujet. Encore une fois, hein, le modèle économique fait que c'est absolument une très bonne idée, justement, d'avoir fait des travaux très coûteux et d'avoir un bien qui nous rapporte 500 euros par an, ce qui est quand même juste hallucinant. Moi, c'est la première chose qui m'a choqué dans le dossier.
Ah, ok. Satisfait, plutôt.
Non, qu'on paye que 500 euros pour une maison de cette taille-là, pardon.
Oui, oui, bon, j'étais dans le vent.
Bon, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Le rapport est adopté, je vous remercie. Monsieur Kervosien. Oui?
Non. Mais le.
C'est le rapport numéro 18 sur la mise en réserve des parcelles cadastrées. Alors, je ne vais pas toutes les citer.
Il y a 8 parcelles.
Dans le cadre de l'aménagement foncier.
Voilà, il s'agit de la mise en réserve auprès de la SAFER, de 8 parcelles à l'école, donc situées sur le village d'Humsoir, donc qui sont vendues par les consoeurs Colette Pévédic, Le Boët. Ces parcelles étaient exploitées par un exploitant dont le siège se situe sur la commune de Crac. Et au fil des négociations, on s'est retiré de l'achat de ces parcelles, sachant que si effectivement il avait voulu les acheter, il aurait été prioritaire. Et de ce fait, la commune, donc dans le cadre du projet d'aménagement foncier, souhaite qu'elle remise en réserve auprès de la SAFER pour pouvoir contribuer au regroupement parcellaire. Et d'ailleurs, on peut noter sur cette carte le morcellement sur ce village. Voilà. Et puis donc bon, l'intérêt également, c'est que c'est la SAFER donc qui gère l'allocation des terrains dans l'attente du regroupement parcellaire dans le cadre de l'aménagement foncier. Voilà, donc là, il est demandé au conseil municipal d'autoriser la préemption de ces terrains-là par la SAFER et bien sûr avec un financement de la commune.
Est-ce qu'il y a des questions sur ce, Madame Godon?
Bah, une remarque, au mois de mai, on a déjà racheté à ce consort Péridique, Le Goët et Collet des terrains. À l'époque, c'était des bois la dernière fois.
Voilà, là il s'agit des terres agricoles et la dernière fois, c'était des bois. C'est-à-dire que la procédure était un peu différente à l'habitude par rapport à la préemption de la SAFER, c'est-à-dire qu'il y a un compromis de vente et le notaire doit faire la publicité, et c'est là que, à travers le vigie foncier, la veille foncière, la commune intervient pour demander à la SAFER de préempter. Tandis que là, les propriétaires se sont adressés à la municipalité directement, et avec la SAFER, on a trouvé ce compromis où la municipalité achète en direct donc les bois, et les terres agricoles sont mises en réserve à la SAFER. Ce qui permet donc à la municipalité de ne pas avoir la contrainte de l'entretien et éventuellement de l'allocation à des agriculteurs. Et là, la SAFER, en fait, elle aux agriculteurs dans l'attente de la restructuration foncière.
Mais juste une question, si l'agriculteur se porte acquéreur, la SAFER vous dira aux gens ou il faut...
Si le locataire,
oui.
Voilà. Si le locataire se porte acquéreur, la SAFER ne peut pas intervenir. D'accord. Le locataire est prioritaire. D'accord. Il y a des priorités, il y a des conditions dans lesquelles la SAFER ne peut pas intervenir. Le locataire qui est prioritaire, une succession, etc. Là, la SAFER n'a pas le droit d'intervenir.
Oui, mais ce qu'a acquis la SAFER, comme là par exemple, c'est et si un agriculteur souhaite acheter une de ses parcelles, la SAFER lui vend.
Oui, mais justement, là, comme le locataire qui est donc dont le siège est à Crac n'était pas intéressé par l'achat. Du coup, dans le cadre de l'aménagement foncier, on a souhaité que ce soit la commune demande la préemption par la SAFER pour avoir les moyens de contribuer à la restructuration foncière. Il y avait des agriculteurs de Carnac qui les auraient achetés, mais nous, la commune s'est positionnée pour les mettre en réserve auprès de la SAFER.
Une restructuration future.
Absolument. Voilà. Sinon, on ne contribuait pas du tout à la. On conservait ce morcellement, et puis avec du recul, parce qu'il n'y avait pas qu'un agriculteur d'intéressé, donc ça a créé des conflits, et là, avec l'accompagnement de la SAFER, il y a eu un terrain d'entente de trouver entre deux agriculteurs de Carnac pour exploiter l'ensemble de ces parcelles.
Ok, donc j'imagine qu'il n'y a pas de vote contre cette initiative. Il faut vraiment que... Et je remercie M. Carbonien de travailler sur ce dossier compliqué du réaménagement foncier, parce qu'effectivement, il faut qu'on facilite la vie et l'exploitation de leur terre par nos agriculteurs qui pâtissent beaucoup à Carnac de ce morcellement extrême de leur parcelle. D'ailleurs, on se demande qui a un jour dessiné ces parcelles. J'imagine qu'il y a beaucoup d'histoires familiales. Mais en tout cas, voilà, le domaine de M. Carbonien, c'est de faire en sorte de mettre tout le monde autour de la table et de permettre aux agriculteurs, au terme de ce réaménagement, d'avoir des conditions de travail quand même plus facilitées. Donc je vous remercie, le rapport est adopté à l'unanimité. Une autre acquisition, on a bien cadastré, monsieur Carbonien, la parcelle BH52.
Voilà, la parcelle BH52, donc qui se situe au Ménec, en fait, on va dire, à l'extrémité de la rue du Courdiec, à gauche, lorsque l'on va vers Carnac. Donc ça, c'est une parcelle qui avait un statut un peu particulier, puisqu'il y a une partie qui était classée en U et une partie qui était classée en N. Donc nous avons demandé à la TAFER de réaliser une préemption sur la partie classée en N, et le vendeur a demandé à ce que la TAFER achète le tout. Donc ce qui a été accepté. Et voilà, donc la demande est d'acquérir en fait cette parcelle BH50.
Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Pas de vote contre, pas d'abstention? C'est unanimité, je vous remercie. Monsieur Durand, on passe à l'acquisition d'une parcelle M233 cette fois-ci.
Alors, petite parcelle, petit prix.
Une citation du même genre, mais qui ne portait pas sur les parcelles.
Merci. 777 mètres carrés non constructibles. Voilà. Donc, ça permet de relier le chemin qui était déjà commencé. C'est une propriété communale qui est au nord, le chemin qui est bleu. Et il ne restait plus qu'à... qui appartient donc au ministère de l'Équipement, du Transport et du Tourisme.
À vocation de circulation douce.
Oui. Voilà, à vocation de circulation
pour relier
et vélo.
Ouais. Voilà. Je pense que tout le monde sera d'accord. Unanimité, je vous remercie. On passe au rapport suivant. Toujours monsieur Durand, acquisition d'une parcelle BH168 et BH170, toujours au Ménec.
Voilà, donc là, nous sommes donc au Ménec. C'est le terrain qui appartient à l'Inquéric, hein, pour ne pas se cacher. Il est au sud, à l'ouest du cimetière, comme on l'aperçoit. Et de Tatin, qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Oui, on avait fait un emplacement réservé sur cette parcelle dans le but et d'agrandissement déjà du cimetière et de parking pour le cimetière et puis pour autres, évidemment.
Alors, est-ce qu'il y a des questions, Madame Le Golevent?
Alors, justement, est-ce que le vendeur a utilisé, puisque c'était, vous l'aviez mis en zone réservée,
oui.
Est-ce qu'il a utilisé la clause de délaissement sur ce terrain ou pas?
Alors là, je ne sais pas.
Non, c'était une négociation de gré à gré. Il s'agit de maintenir ce terrain à l'état naturel, hein, il sera jamais bitumé. Mais et je me souviens, Madame Le Golevent, vous nous aviez interpellé à plusieurs reprises sur les stationnements route du Ménec où l'été. Et donc on a vraiment besoin pendant quelques périodes d'un vase d'expansion en termes de stationnement, puisque souvent le stationnement de la maison des mégalithes n'est pas suffisant. Et donc l'objectif, c'est de permettre à certains moments de l'année de faire du stationnement, encore une fois, sur un terrain qui restera naturel. Et de pas de le bitumer, mais de permettre voilà un certain nombre de véhicules, beaucoup d'habitants de la route du Ménec qui nous demandent, parce que là aussi l'été on a des stations déployées sur le début de la route du Ménec à l'entrée de la route d'Auray, on a beaucoup de gens qui se garent un petit peu n'importe où, et donc ça donnera un petit peu une bouffée d'oxygène à la haute saison.
Alors justement pour la, je reviens à la B52 parce que ça a été vite, j'ai pas eu le temps de la B52 qui est juste en retrait de ces terrains-là, c'est quand même, ça paraît un peu plus enclavé déjà la B52, mais quelles sont vos intentions? Parce que c'est pareil sur le bord de Vaux, on lit que c'est dans le cadre de la gestion.
Alors on en a déjà parlé. D'abord, il y a clairement une volonté, si c'est possible, encore une fois, hein, parce que la législation. Se renforçant sur un certain nombre de choses. Dans l'absolu, on a la possibilité de faire, et encore une fois, c'est un projet plutôt lointain, hein, mais éventuellement de faire une rocade qui passerait donc de la, à peu près au niveau de la Maison Bleue et qui viendrait rattraper la route du Ménec, qui nous permettrait de clore définitivement la route du Ménec à la circulation, et également de décharger un petit peu la rue de Bellevue, qui est aujourd'hui très fréquentée en termes de circulation. Et donc c'est pour ça que, globalement, vous l'avez constaté, globalement, on essaye d'être propriétaire de l'ensemble de cette zone, à la fois pour cette raison, à la fois pour les stationnements, et à la fois pour la future extension du cimetière éventuelle, puisque dans quelques années, on aurait pu nous reprocher, si le cimetière devient saturé, malheureusement beaucoup de cimetières sont saturés, de ne pas avoir prépositionné des achats communaux dans cette. Voilà. Donc c'est pour ces trois raisons en fait qu'on essaye d'avoir une continuité physique de la procession communale à cet endroit.
Alors moi, par rapport au...
Non, il faut l'allumer quand on parle.
Les terrains donc que l'on va acheter là, ce sera donc comme vous le disiez plus pour du parking, ça restera en herbe quand même en l'état.
C'est ce que j'ai dit, non ?
Oui, tout à fait.
Donc ça doit rester en herbe de toute façon, hein. Obligatoirement de par le classement, c'est obligatoirement que ça reste en herbe, ça peut pas être bétonné. Hein. Donc c'est clair.
Ce parking sera gratuit ou vous le ferez payant ?
Ah, on est
pendu, là. Ouais, je pense dans un premier temps, il sera gratuit. Après, je ne peux pas. Je ne sais pas. En tout cas, une municipalité pourrait très bien un jour se dire pourquoi pas le rendre payant. Mais d'ailleurs, les deux parkings, hein, celui de la maison des mégalithes et celui-là. À ce stade, il ne sera pas payant. Déjà, les négociations ont été compliquées pour acquérir ce terrain. Je pense que c'est un dossier de 5, 6, 7 ans. Je pense que les municipalités décideront. Je n'ai pas d'avis à rester sur le sujet parce que le rendre payant, ça veut dire un investissement, une infrastructure. Évidemment, un parking qui est bien géré, ça peut aussi rapporter des deniers à la commune. Mais à ce stade, non, pourquoi pas payant.
Mais est-ce que le vendeur aurait pu, lui, en faire un parking justement payant ?
Compliqué, non, enfin il aurait, enfin je sais pas, au regard de la législation, je pense qu'il aurait pu en faire un parking, mais il aurait eu besoin d'autorisation communale, et puis je vois pas Alain se lancer dans ce genre de projet. Il installait déjà sa grande passion, le cirque, les cirques à certains moments de l'année sur ce terrain, mais
c'est durant. Il me semble qu'on emprunte déjà pour aller au cimetière avec le camion.
Au milieu du terrain, on a une serviette du passage qui passe à côté du trou de barre à côté, qui permet justement au cas où de redescendre par le derrière le bout du cimetière et passer par là pour récupérer la rue de Ménéco.
Bon, est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Margamer, assez rapidement, hein, les rapports annuels de gestion des
déchets ménagers
et assimilés.
Oui.
Et puis l'eau du Morbihan.
Oui, vite fait. Donc il y a 118 120 habitants sur le territoire. Et donc on a fait 88 167 tonnes de déchets en 2024. Et donc les ordures ménagères ont diminué de 30%, soit 537 kg par habitant. Et l'objectif était 150, donc ça s'est un peu amélioré. Par contre, de la collecte des emballages, comme tout le monde peut le remarquer, a augmenté de 53%. Voilà. À peu près ce qu'il y a à dire sur le rapport des ordures ménagères. Vous pourrez le consulter si vous voulez. Il y avait juste un petit truc à rajouter, c'est qu'ils avaient marqué c'était l'année dernière. Hein. Ils avaient marqué les périodes de collecte, ils s'étaient trompés. Donc ils nous ont envoyé un truc pour le rectificatif, mais comme c'était l'année dernière, je ne vous le dis pas parce que c'est passé. D'accord ? Vous n'en avez pas besoin. Et puis l'autre rapport. Attendez, j'ai mis une page par là, il n'y en a pas pour longtemps. Puis j'ai mis deux secondes. Tac tac. Bah, je sais pas, voilà, c'est Haut du Morbihan. Haut du Morbihan, dans la production, c'était 24 millions de mètres cubes produits. Et puis, on en a pris un petit peu à certains endroits parce qu'on n'avait pas assez. Et donc, les abonnés de l'Eau du Morbihan ont gaspillé 11 300 000 de mètres cubes d'eau consommée. Voilà. Utiliser. Utiliser. Ah oui, il y en a qui disent qu'on la gaspille, l'eau. Alors il faut savoir quand est-ce qu'on la gaspille et quand est-ce qu'on l'utilise.
Mais voilà.
On a eu beaucoup parce qu'on s'est fait aider par d'autres gens.
On nettoie les rues des communes avec
de
l'eau potable, c'est vrai qu'on voyage dans d'autres régions du monde, c'est juste surréaliste.
C'est clair, ça.
On utilise d'ailleurs un projet d'adaptage, je crois, et je le soutiens. Évidemment, d'utiliser une partie des eaux des stations pour laver les
espaces. C'est un cours, c'est un cours.
Il n'y a pas de vote sur ces. Madame Le Bellon, il y a quand même des questions.
Pas forcément des questions, des remarques. Monsieur, concernant les. Le RAE est intervenu dans
l'Ouest de France. Ah bah voilà, l'Ouest de France. Vous avez coupé la directrice du musée, mais pas.
Là, les déchets.
Donc par rapport aux déchets, le président donc tient à faire un mea culpa général sur la distribution qui a vraiment été très laborieuse. Et il dit, c'est un sujet qui irrite, je le comprends, on arrive aujourd'hui à une certaine stabilisation de la situation. C'est-à-dire que là, visiblement au niveau des poubelles, tout ce qui est des poubelles jaunes, donc elles ont été a priori pour l'ensemble de la data sous-dimensionnées et du coup elles se retrouvent avec les déchets, comme on peut voir parfois sur notre parking là.
Mais à la limite, quand ils sont sur notre parking, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on les ramasse et ils ne sont pas dans la nature.
Tout à fait. Nous, on a cette chance, mais visiblement, dans d'autres communes, ça ne doit pas être le cas. Il faut qu'ils fassent un miracle ou pas, quand même, sur ce sujet. Nous, à Carnac, je ne sais pas qui de vous assiste, nous, à Carnac, est-ce qu'on est concerné justement au-delà de nos poubelles est-ce qu'il y a des
concernés par quoi?
Par le fait d'être sous-dimensionné au niveau de leur...
Non, il y a des... Enfin, après, moi, j'ai une conviction personnelle qui n'engage que moi. J'aurais pas fait ça si j'avais été... D'ailleurs, on a eu des discussions dans un acte, j'aurais pas utilisé les containers. Il se trouve que je connais d'autres régions qui fonctionnent complètement différemment avec beaucoup plus de points d'apport volontaire où, en fait, les gens gèrent eux-mêmes leurs déchets. Ça évite d'avoir des centaines de camions dans les rues, ça évite d'être en plastique qui ne sont pas très... en termes de gestion, c'est compliqué. En termes de fabrication, d'émissions de CO2, c'est des matières plastiques. Je pense que l'avenir, c'est les points d'apport volontaires. Je connais beaucoup d'autres communes, malheureusement pas au sein d'Acta, mais qui sont passées à ce système. C'est pas simple parce que ça change nos habitudes et on sait qu'on est dans un pays où quand on change ses habitudes, c'est compliqué. Le point d'apport volontaire, c'est plus compliqué pour gérer les déchets biologiques parce que il y a des odeurs, mais il y a d'autres collectivités qui y arrivent. Donc c'est pas le choix qui a été fait par ACTA. Je pense quand même qu'on arrivera à terme sur cette technique. Et en tout cas, tant qu'on sera dans cette situation mixte, moi je souhaite qu'on installe des points d'apport volontaire où on peut, de manière à pouvoir gérer, parce qu'encore une fois, on est une station balnéaire où il y a des gens qui partent pas forcément, qui quittent leur maison, leur location, pas forcément de manière coordonnée avec les collectes. Et donc, c'est toujours bien d'avoir un endroit, même si effectivement, certains dimanches, grand départ de week-end ou de vacances, on a une accumulation à plus personne de d'ordures ménagères, mais au moins, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas dans la nature, et que le lundi, à 6h du matin, eh ben, c'est ramassé, et c'est donc traité, donc c'est un peu plus tard.
Même le dimanche.
Donc effectivement, visuellement, c'est pas top, j'en conviens, mais encore une fois, quand les gens râlent, je leur dis qu'il vaut mieux que ce soit là, à un point où c'est collecté dans les 12 heures, plutôt que ça se retrouve dans les chemins, dans la nature, parce qu'on a aussi des problèmes de gens qui déposent des déchets à des endroits pas forcément prévus pour ça.
Dans le rapport sur l'eau, c'est pareil, il y a quelque chose qui m'a surprise, je ne l'avais pas forcément vu auparavant. Là, ils insistent sur le phénomène de raréfaction de la ressource, donc ça devient quand même visiblement quelque chose de prégnant. Donc là, le phénomène de raréfaction de la ressource se confronte à une évolution des besoins. Donc, et ils nous disent que selon les projections de l'INSEE, la Bretagne, et en particulier le Morbihan, verra sa population augmenter de façon notable d'ici 2050. Donc à partir de là, nous c'est pareil. Est-ce qu'il y a des choses que les communes peuvent mettre en place déjà ou...
Oui, bien sûr. Alors c'est pas, les communes ne gèrent pas cette problématique, mais c'est une problématique qui devient de plus en plus aiguë avec la multiplication des périodes de sécheresse. On est pourtant une région réputée plutôt bien arrosée, ce qui est vrai d'ailleurs, mais la géologie fait que il n'y a pas de nappe phréatique et qu'il est toujours compliqué. On a une eau qui est présente mais qui s'évacue très très rapidement, et comme on n'a pas, on l'a vu d'ailleurs, c'est pour ça qu'ACTA a fait des connexions avec le Blavet et la Vilaine, parce qu'on est, on est un territoire très compliqué au niveau de la gestion de l'eau, parce que la seule réserve qu'on a c'est à Tréoret, et évidemment il y a beaucoup de choses à faire. ACTA travaille sur ce sujet. La première, c'est effectivement d'utiliser les eaux traitées plutôt que de les balancer à la mer, alors que avec une station membranaire elle est quasi potable. Et moi, à titre personnel, je trouve qu'on devrait effectivement travailler ces sujets pour, par exemple, ne pas nettoyer l'espace public avec de l'eau potable. Parce que je pense qu'on montrerait ça à des habitants d'autres continents en leur disant qu'on nettoie nos rues avec de l'eau potable. Je pense qu'ils seraient absolument abasourdis. Et c'est vrai que même pour nous, qui avons été habitués à l'abondance et qui allons devoir gérer la raréfaction, il y a plein de pratiques qu'il faut qu'on change. Il y a de plus en plus de gens aussi qui... qui récupère l'eau des toitures pour leur jardin, qui n'en reste plus avec... bon, ça pose d'autres problèmes, parce que c'est aussi... voilà.
Ça évitera que...
Scénario catastrophe. Oui, moi je pense que quand tu arroses ton jardin, au bout d'un moment, ça retourne...
Ça repart, oui.
Ceci dit, oui, oui, il y a plein d'initiatives. Je crois que c'est aussi une démarche citoyenne. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans sa propre maison pour limiter sa consommation d'eau, que ce soit les petits dispositifs sur les robinets qui sont d'ailleurs, je crois, en accès libre ici, là, si vous ne l'avez pas choisi... ou pris, je vous incite à aller sur le comptoir de l'accueil de la mairie, et donc voilà, il y a plein de petits dispositifs qui permettent de consommer moins d'eau. Il y a aussi, comme je le fais moi, engueuler mes filles quand elles restent une demi-heure sous la douche, pas prendre de bain.
Quand on a les cheveux.
Ça fait partie des choses. Comment ?
Quand on a les cheveux longs.
Même pas une demi-heure. Et donc, oui, il y a plein de choses. Je pense que ACTA travaille beaucoup sur les gros consommateurs qui sont les industriels, qui sont les campings, qui font beaucoup de choses, et on voit que ça a des effets. Il y a aussi un énorme travail fait sur la qualité du réseau, parce qu'il y a aussi beaucoup de pertes dans les réseaux. Hein. C'est, quand vous injectez 1 mètre cube, je ne sais pas quel est le rendement de votre réseau.
Je crois qu'il y a 15-18%.
Il y a 15-18% de pertes, ce qui est énorme. Hein. C'est-à-dire que c'est de l'eau qui a été traitée et qui va dans la nature. Et puis, mais dans beaucoup de démarches personnelles, c'est-à-dire à nous de faire attention à ce que... Voilà, on a été élevés un peu comme des enfants gâtés dans notre rapport à l'eau, et il faut que ça change et qu'on soit plus...
C'est les pompiers aussi, ils ont des chargés trop d'eau.
Ouais. Enfin, il y a plein d'initiatives à faire, c'est clair, et avec l'augmentation de la population, la raréfaction de l'eau, même si on reste encore une fois gâté, c'est sûr qu'il va falloir changer les usages.
Et justement, parce que quand j'ai vu ça, évidemment, je pensais à notre réserve d'eau... Pardon. Je pensais à la réserve d'eau qu'on avait naturelle, qui avait été créée d'ailleurs, je parle de Terre-Louquet. Est-ce que c'est quand même si ce n'est pas dans vos priorités, parce qu'on le voit que ce n'est pas dans les priorités, mais est-ce que ça c'est quelque chose qui pourrait quand même agir, ou en tout cas faire en sorte que on s'intéresse et qu'on rende le... Alors, on sait qu'on ne pourra jamais le mettre en eau comme il était, mais il y a quand même des minimas. Est-ce que ça c'est quelque chose qui pourrait nous faire changer, ou vous faire changer de...
Alors, je ne peux pas vous laisser dire que ce n'est pas une priorité. Enfin, c'est un dossier éminemment complexe dans lequel viennent s'enchevêtrer plusieurs législations. Je ne peux pas vous dire que ça n'a pas été une priorité. La commune a dépensé beaucoup d'argent, y compris en sondant le barrage pour en vérifier la qualité, en procédant à des études. Il y a un moment, quand la préfecture et l'État vous disent non, ce n'est pas possible, vous pouvez en faire toutes les priorités que vous voulez, Madame Le Leblanc. Quand la loi sur l'eau, quand la DDTM, quand vous disent c'est pas possible, il y a un moment, il faut s'arrêter. Même si c'est douloureux, même si à titre personnel, j'aurais aussi préféré qu'on garde, si vous avez une recette magique pour maintenir les temps Kerloquette, hein, qui, je le rappelle, a été fermée à l'initiative de la préfecture. Et il y a un certain nombre de législations qui s'enchevêtrent, la loi sur l'eau notamment, et la continuité des cours d'eau, sur la sécurité du barrage, sur... Il y a plein de choses qui sont venues en collision avec une idée pourtant intéressante qui est celle que vous soulevez, à savoir d'avoir une réserve d'eau. D'ailleurs, c'est bien pour ça, même si c'était pour alimenter en eau potable Carnac-Plage qu'elle a été construite, ça aurait été intéressant, pas seulement pour des raisons visuelles et bucoliques, parce que je pense que les Carnacois étaient très attachés à cet espace, ça aurait été intéressant d'avoir une réserve d'eau pour les pompiers, pour beaucoup de choses. Malheureusement, encore une fois, je ne veux pas faire... c'est pas parce qu'on a envie que quelque chose se produise qu'on peut le faire et qu'on a la capacité de le faire. On a fait toutes les réunions du monde avec l'ensemble des services, on a même diligenté des études sur la végétation, malheureusement, il y a un moment, il y a un mur juridique que vous prenez en pleine face. Alors, voilà, c'est le rôle de l'opposition de dire que ça n'a pas été la priorité de la municipalité, mais ça l'a été, encore une fois, on a dépensé pas mal d'argent public, mais il y a un moment... Quand on vous dit non, je ne vais pas non plus engager l'argent du contribuable carnacois pour quelque chose dont je sais qu'il est impossible. C'est triste, mais c'est comme ça. Bon, il n'y a pas de vote sur ces deux rapports. Je vous propose de passer donc. Alors cette fois-ci, il y a un duo, M. Carbonien, M.
Martin
Bellin, sur l'approbation de l'engagement de la commune dans la démarche d'élaboration des plans massifs de défense des forêts contre les d'actualité. Et d'ailleurs lié à la raréfaction de l'eau, puisqu'on a eu ces dernières années des incendies importants. Donc c'est Jean-Paul.
C'est moi. Voilà, donc suite en fait au feu de l'année 2022, où il y a eu beaucoup de feux, donc ils sont déclarés localement. Donc il a été décidé par les autorités de mettre en place au niveau du département ce qu'ils appellent trois massifs forestiers. Donc il y en a un au niveau de trois massifs forestiers donc sensibles dans le rouge par rapport au risque incendie. Donc il y a le massif forestier de Brocéliande, qui est à cheval de Morbihan et des Vivienne, le massif forestier des Landes de Langeau et le massif forestier des Landes Adriennes, qui intègre la commune de Carnac, bien entendu, puisque la commune de Carnac est classée à risque incendie, c'est-à-dire c'est le risque le plus élevé par rapport aux incendies. Dans ce massif forestier, il y a une trentaine de communes et environ donc 12 000 hectares, qui représentent environ 12 000 hectares de forêt. Donc globalement, le massif, il va de Plouneg, Réantec à Baden, l'Armor-Baden, et Plémel, le Colmadon. Grosso modo. Et donc, l'objectif, c'est d'élaborer donc un plan d'action pour la prévention des incendies et la lutte contre les incendies dans le cas où il y a des incendies. L'engagement de la commune s'engage à participer à la mise en place de ce plan d'action et à réaliser les éventuellement nécessaires à la lutte contre les incendies, donc ces travaux qui peuvent être des pistes DFCI, donc c'est des pistes DFCI, de points d'eau, de répertorier tout cela, de communiquer des actions de communication auprès du public, etc., pour l'entretien.
Parfait, donc je pense que tout le monde sera d'accord sur ce plan. Hein. Encore une fois, c'est tous les étés, c'est un peu ma grande hantise quand on passe du purgatoire et qu'on entre en terrain et qu'on a cette belle trouée verte. On voit qu'un jour, on ait un incendie majeur dans cet espace, ce sera vraiment une catastrophe pour la commune. Donc, il faut vraiment.
Oui, pour compléter, en fait, il y a un travail donc tout d'abord de diagnostic, ensuite donc de réflexion d'un plan d'action, et l'objectif c'est que ce plan d'action soit en place début 2027.
Donc j'imagine qu'il y a unanimité sur ce type de rapport. Je ne me suis pas trompé, merci. On passe au rapport 25, monsieur Markenberg, la modification des statuts de Morbihan Énergie.
Pour clarifier les compétences optionnelles et les activités accessoires du syndicat et d'actualiser les statuts pour intégrer les récentes évolutions législatives telles que l'autoconsommation collective d'électricité, les schémas directeurs d'infrastructures et de recharge de véhicules électriques, comme on en a mis quelques-uns à Carnac, et de préciser les conditions dans lesquelles chaque membre transfère au syndicat toute ou partie de ses compétences et qu'il exerce. Et il faut mettre la mise à jour des listes des membres. Il y a pas mal de syndicats qui sont venus. Maintenant, on va se retrouver à 13 intercommunalités. La fiscalité propre du Morbihan sont désormais membres du Morbihan Énergie. Et donc, considérant que le fait que pour ces modifications soient effectives et fassent l'objet d'un arrêté préfectoral, l'accord des membres. Et donc, la commission Travaux, Sécurité et Développement Durable de la commune de Carnac lui donne un avis favorable.
Pas d'objection. Bon, merci. Rapport voté à l'unanimité. Toujours M. Markenberg, cette fois-ci la convention de prestation de services du parc d'activité de Montauban-Beauséjour. Je crois que c'est les prix, les coûts horaires, c'est ça, hein?
Ouais, c'est-à-dire que quand il y a des petits travaux à faire dans la zone Beauséjour de. À Carnac, ACTA n'a pas de personnel pour le faire, donc ils ont demandé que la commune de Carnac fasse les travaux nécessaires, donc ils nous ont proposé un tarif, c'est le tarif, je crois, d'ACTA, donc les prix sont marqués là, donc on n'y va pas souvent, c'est un dossier pour 3 ans, renouvelable expressément tous les 3 ans, voilà. Il n'y a rien de spécial, ça nous arrive tant d'y aller comme ça maintenant.
Et c'est évidemment le même prix pour toutes les communes.
C'est le prix d'ACTA, donc c'est pour tous les... Tous les zones d'activité sont les mêmes pour toutes les communes.
Je rapport approuvé à l'unanimité, je vous remercie. On passe en l'absence de M. Christophe Richard, c'est Mme Chris Lamandé qui va prendre les rapports du sport. Un peu de sport, Chris.
Donc, tarif de mise à disposition des équipements communaux pour les activités. Là, je suis un petit peu plus dépourvu.
Ah oui, pardon. franchement, j'avais regardé l'autre, mais je n'avais pas regardé celle-ci. Donc, vous savez qu'on est mis à disposition
les équipements communaux. Et souvent, on les met à titre gracieux pour les associations. Et Christophe Richard a vraiment une politique au niveau des activités concernant notamment les mineurs. Et lorsqu'il fait des conventions, il demande aux associations des équipements sportifs à titre gratuit, surtout d'avoir un projet à long terme. Et surtout d'avoir un projet pédagogique en matière de sécurité, d'encadrement, et surtout d'avoir des professionnels. Et donc, c'est pour ça qu'il a permis d'avoir des équipements à titre gratuit, et on demande de l'accord du conseil municipal de bien vouloir entériner ce désir de Christophe.
Alors, si je peux apporter
franchement, c'est pas
ce qui nous a été présenté en commission par rapport à ce bord de rôle, c'est je le retrouve pas forcément d'ailleurs, c'est pour ça que je prends. Christophe Richard nous a dit qu'en fait, les associations extérieures, maintenant, pourraient. Voilà, monsieur, vous voilà. Donc pourrait bénéficier, en tout cas profiter de nos infrastructures, et ce à titre gratuit dans la mesure où il s'occupait, ça concernait les enfants mineurs.
Tout à fait.
C'est surtout destiné aux associations, par exemple nous qu'on vote là, aux associations extérieures. Donc Carnac ouvre ses portes.
On a besoin de jeunes. Et en plus des jeunes qui font du sport.
Si je peux confirmer, continuer aussi dans la même. Ça a commencé surtout avec la Gouraine qui venait de l'extérieur de Carnac, et pour s'assurer que la Gouraine puisse bien trouver au sein de Carnac les équipements nécessaires pour pouvoir continuer, on avait besoin de cette autorisation de gratuité.
Quel est votre contre ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Loïc Coudois, une convention mise à disposition gratuite d'un local avec la raquette.
Eh ben vas-y, je te laisse. Tu l'avais bossé.
Moi, je vois le coup de doigt sur le rapport.
Ah non, c'est le coquille.
Pardon. Mais on va le faire avant.
Vous discutez pas. Tu l'as
perdu.
Alors, vas-y. Juste une petite spécification. Si vous avez eu quelques coquilles, parce que le rapport a été corrigé, et je pense que certains d'entre vous ont l'ancienne version. Donc, monsieur le maire.
Monsieur le maire a l'ancienne version. C'est scandaleux.
Désolé, ce sera mieux pour la sortie.
C'est la police.
Oui, vous connaissez la raquette carnacoise. Ah, et donc nous faisons maintenant des conventions, parce que jusqu'à présent souvent les bâtiments étaient proposés à titre gratuit auprès des associations, et nous ne faisons que régulariser les situations. Et donc là, pour la raquette carnacoise, on leur propose une convention de 3 ans à partir du 1er août 2025, et donc à titre gracieux, et tout simplement nous régularisons la situation. Voilà, tu y arrives.
On te mettra en début de conseil la prochaine fois.
Oui, voilà.
Bon, c'est une régularisation administrative. Hein, on essaie de mettre au carré toutes ces relations avec les structures associatives. J'en profite pour remercier le bureau, le CA et tous les bénévoles de la raquette carnacoise pour le travail qu'ils font à l'année. J'imagine qu'il n'y a pas de vote contre. Unanimité, je vous remercie. Alors cette fois-ci, c'est monsieur Loïc Coudois ou c'est.
Non, c'est toujours dans le sport.
C'est toujours Chris. Allez, Chris, c'est parti.
Bon, pour certains qui connaissent l'association Allo à Sauvetage Secourisme, elle a pour objet le développement du sauvetage et du secourisme dans le département du Morbihan, et notamment à Carnac. Et donc, pour favoriser ce développement, on fait une convention pour une mise à disposition à titre gratuit. Pour les années 2025, 26 et 27, donc c'est-à-dire 3 ans. Voilà, un local communal situé à la pointe vue du Calmaros.
Ouais,
sauf si Chris, tu veux.
Non, c'est pas la colère, sinon c'est c'est le bordel en mairie. Monsieur Oulois.
Donc là, c'est une convention en fait qu'on signe avec la caisse d'allocation familiale. Ça permet en fait aux enfants issus de familles modestes de pouvoir bénéficier en fait d'un dispositif d'aide pour que les enfants puissent partir en vacances dans le cadre des séjours qui sont organisés par la ville.
Parfait.
Juste une remarque sur les dates, en fait, c'est le 31 décembre 24. C'est que juste il y a eu un oubli pour qu'on les refasse avant.
Non, en fait, c'est. Enfin, tu regarderas, mais en fait, avec la CAF, il y a toujours un calendrier qui est un peu particulier. Qui est, ouais. Là, c'est pas nous qui gérons ce volet-là, c'est bien les bonnes dates et c'est systématique avec la CAF.
Alors, pas de, j'imagine non plus, pas de position, ce rapport avec les familles. Je vous remercie. On passe maintenant à l'adhésion au réseau des médiathèques d'ACTA, Madame Isoa.
Oui. Alors, effectivement, donc il y a l'adhésion au réseau des médiathèques, la convention cadre donc 2025-2030 et la validation du schéma de culture publique. Donc, vous avez eu tous les dossiers en annexe, donc je vais peut-être pas tout reprendre. Donc, en fait, le projet de délibération, c'est effectivement considérant l'intérêt communal d'intégrer le réseau des médiathèques d'ACTA afin de favoriser la lecture publique et développer l'offre culturelle proposée. Considérant que la commune participera financièrement au poste de coordonnateur du réseau, soit pour une année de référence 4 385,90 €. Et considérant que les tarifs de la médiathèque seront toujours approuvés par décision communale, mais que la commune a pris l'engagement de prendre en compte les tarifs mis en place sur le réseau, qui effectivement sont différents de ceux de la médiathèque de Carnac. Donc il est proposé au conseil municipal d'acter le principe d'adhésion au réseau des médiathèques, de signer la convention cadre de fonctionnement du réseau des médiathèques de l'État, donc pour une durée de 5 ans, donc le 1er septembre, non, enfin, je pense que ça va démarrer dès la signature ce soir, jusqu'au 31 décembre 2030, et d'acter le principe d'ajustement de la tarification des abonnements en cohérence avec les autres communes telles que proposées dans la convention.
Est-ce qu'il y a des questions ?
Non.
Madame Levalement.
Toujours des remarques.
Des remarques.
Madame, vous avez changé d'avis parce que vous étiez vent debout contre cette médiathèque, voilà, cette adhésion à la médiathèque d'ACTA, enfin, intercommunalité plutôt. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis?
Alors, c'est très simple. Hein, il ne vous aura pas échappé que le premier mandat a été un petit peu compliqué au sein d'ACTA. Hein, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se mettaient en place et que, à l'époque, un certain nombre de propositions et de dispositions qui ont été mises en place dans cet réseau des médiathèques qui nous inquiétaient, comme voilà, le fait d'avoir une navette qui transportait des livres d'un endroit à un autre. Paraissait pas très pertinent, d'abord parce que personne ne demandait ce genre de service, qu'ensuite d'avoir une camionnette qui circule au diesel toute l'année sur les routes de l'intercommunalité pour amener un livre ou deux livres de Camors à Auray, ça ne paraissait pas très pertinent. Et par ailleurs, voilà, les perspectives financières que vous avez exposées faisaient qu'on n'a pas eu envie de rejoindre le réseau transparent. Et au cours de ce deuxième mandat, je pense qu'il y a eu beaucoup plus d'écoute, beaucoup plus de débats et de concertations sur ces sujets. Et on a été rassurés sur un certain nombre de sujets, notamment le coût. Vous savez que Pascal est très attentif à ces questions, et nous le sommes tous. Et donc, il nous a paru intéressant, compte tenu de la dynamique qui s'était créée, tout en ayant une politique de coût assez raisonnable, et bien de rejoindre ce réseau, sachant encore une fois qu'il garde toujours il y a toujours des divergences entre certaines communes. Hein. Il y a des communes qui veulent que ces médiathèques soient gratuites, d'autres non. Je suis très attaché à la culture et à sa diffusion. Ceci dit, voilà, la gratuité totale est quelque chose avec lequel je suis un peu mal à l'aise, et c'est pour ça qu'on a tenu d'ailleurs, en rejoignant ce dispositif, à garder la main sur les tarifs, évidemment en regardant ce que font les autres communes, mais pas forcément en allant de but en blanc dans la gratuité. Voilà les raisons.
Alors justement, pour ça c'est pour Pascal la question. Là on voit que la participation financière, donc pour le coordonnateur, c'est 4 385 €. Par contre, est-ce qu'on évalue le que ça va nous rapporter aussi, parce que du coup, on est obligé, on peut moins investir en tout ce qui est livre, puisqu'on s'arrange avec tous les autres. C'est comme ça que ça se passe ou pas?
Catherine, je ne sais pas si tu choisis, parce que là, je sais pas, moins investir, on sera dans le temps. On verra si effectivement il y a un intérêt, enfin s'il y a une possibilité de moins investir, enfin le but c'est quand même d'investir. Bon, après, moi vous connaissez mon point de vue, donc je ne veux pas revenir dessus, sinon je vais être pas désagréable.
Non, mais c'est pas la peine.
Tout ça,
Il y a juste une chose, c'est qu'en fait, effectivement, il y a la possibilité de mutualiser des achats. Par contre, il y aura des spécificités dans chaque médiathèque. C'est-à-dire le fonds breton, par exemple. Donc, effectivement, on reste quand même maître de nos achats. Sauf sur, par exemple, les nouveautés, les livres qui sortent en nouveauté. Donc, au lieu d'en acheter chacun 5-6, donc il y aura un achat mutualiste.
Ceci dit, ça a ses limites dans le domaine du livre, parce que vous savez bien, Madame Le Goldman, il y a un prix du livre, et donc les groupements d'achat, quand on achète des livres ou des biens culturels, ils n'ont pas le même levier que quand on achète des boîtes de haricots ou des, ou des voitures. Donc le retour sur investissement n'est pas, pas fondamentalement majeur dans ce type de dispositif. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Madame Isoard, toujours sur la culture et donc la convention de partenariat avec l'association Nous aussi 2025-2027.
Oui, donc c'est entre le musée de l'histoire de Carnac et l'association Nous aussi, donc qui accompagne les personnes en situation de handicap.
Le micro.
Oui, donc je recommence. Le musée de l'histoire de Carnac et l'association Nous aussi, qui accompagne les personnes en situation de handicap intellectuel. Donc la commune de Carnac soutient les démarches en faveur de l'accessibilité et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Volonté aussi du musée de préhistoire de Carnac d'obtenir la labellisation tourisme et handicap. Donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer et son représentant à signer la convention de partenariat entre le musée de préhistoire de Carnac, l'association Nous aussi, pour la période 2027. Et d'autoriser le versement de la subvention de 500 euros à cette association chaque année pendant la durée de convention. Sachant qu'ils ont déjà travaillé à l'élaboration de panneaux spécifiques justement pour le handicap l'année dernière.
Bon, j'imagine que tout le monde est d'accord, ça paraît naturel. Unanimité, je vous remercie. Une subvention, madame Lamandé, au cercle culturel pour une exposition.
Oui, le Cercle culturel, depuis quelques années, fait l'exposition de peinture et de sculpture Carnac qui va durer dans la salle des expositions en dessous. En 2024, ils ont fait une demande de subvention pour l'armée, mais très 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 tardivement, ce qui fait qu'elle a été confondue par la demande pour l'année 2025. Donc, elle a été traitée à ce titre-là, et donc restait en attente de la demande pour 2024. Pour la participation au matériel acheté par l'association pour les ateliers réalisés par les enfants, notamment les ateliers de peinture qu'ils ont fait pendant l'exposition. Et donc, nous proposons de donner la subvention qui attendait en 2024, et de leur attribuer cette subvention. Voilà.
Monsieur de 750 euros. Je sais ce que vous avez dit.
Alors,
vous l'avez déjà dit en commission.
Oui, j'avais fait la remarque effectivement en commission. D'une part, c'est un problème de date, mais surtout, c'est une association qui se porte bien, voire très bien, et c'est parfait. Je trouve un peu pas exagéré, mais 750 euros, ils auraient pu passer.
Ok. Est-ce qu'il y a d'autres remarques?
Ben, moi, la remarque, ça complète ce que dit Yann, c'est-à-dire que la présidente de l'association, je lui ai demandé aussi pourquoi elle faisait la demande, et visiblement, c'est plutôt... elle m'a expliqué que, justement, dans le cadre de l'exposition, on lui remboursait finalement la location de la salle et les outils utilisés par les enfants en fait, pour leur création. Donc, est-ce que ce serait pas plus simple plutôt que de... Parce que c'est un rituel maintenant, c'est...
Oui, attention. Ce qui s'est passé, en fait, Madame Le Gouvernement, pour être parfaitement transparente, c'est qu'ils ont organisé cette exposition, qui a d'ailleurs rencontré beaucoup de succès et qui est une excellente exposition. Effectivement, la position de trésorerie de cette association est très confortable et ne justifierait pas éventuellement cette subvention, qui n'a pas vocation à être pérenne. Mais, en fait... ils ont bénéficié dans un premier temps de la gratuité de la salle, comme souvent les associations carnacoises qui organisent, sauf que on a réalisé qu'en fait ils vendaient aussi, il y avait une activité commerciale qui contrevenait avec le règlement de la commune, c'est-à-dire qu'on met de la gratuité aux associations carnacoises pour utiliser les salles, mais en revanche il ne faut pas qu'il y ait une activité commerciale derrière, parce que sinon subvention à une activité commerciale, et c'est pas très... Donc on a traité ce petit... cette petite, je dirais, incompréhension en disant, voilà, cette année on va trouver une façon de vous dédommager, parce que dans leur prévision budgétaire ils étaient un petit peu parce que c'était aussi une première fois et que donc ils se lançaient dans quelque chose dont ils ne savaient pas très bien si il était, je dirais, finançable par l'association. Donc on a trouvé cette solution pour, parce que c'était aussi un peu de notre faute de ne pas avoir vu qu'il y avait aussi une partie commerciale, mais elle n'a pas forcément vocation à perdurer, et je suis tout à fait d'accord avec Yann. En général, les associations qui ont des positions de trésorerie suffisamment confortables ne font pas l'objet de subventions en général, et on préfère une approche plutôt opportuniste, c'est-à-dire comme l'association a besoin d'un soutien de la commune pour quelque chose de précis, l'adjoint en charge se traite le problème et on subventionne, mais de manière ponctuelle, mais pas l'explication.
Moi, ce qui me gêne, en fait, c'est que je trouve que de plus en plus, il y a on passe des subventions exceptionnelles, mais en cours d'année. Donc, et alors que tous les autres qui font le boulot, rentrent dans l'idée.
Non, parce qu'en fait, tous les autres, s'ils demandent aussi une subvention exceptionnelle, on regarde. C'est juste parce qu'on veut être au plus proche des besoins des associations. Non, oui. Et c'est vrai qu'il y a un processus administratif qui doit être respecté. Mais de temps en temps, je veux dire, on ne se ferme pas non plus la possibilité, quand une association en a vraiment besoin, de le faire. Je pense qu'il faut être à l'écoute, et c'est vrai que le monde associatif souffre un peu. C'est bien, je pense que tous ici, on est très attentifs au respect des procédures, mais il ne faut pas non plus s'enfermer dans des choses trop rigides.
Au niveau associatif, tous les autres présentent leur dossier en temps et en heure, on donne des subventions exceptionnelles.
Oui, mais parfois il y a des bonnes raisons. Et encore une fois, on peut faire une exception de temps en temps. Mais sur le fond, je ne suis pas en contradiction avec ce que vous dites. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Monsieur Guimard ?
Moi, je fais comme vous.
Vous faites comme bien. Alors, deux votes contre. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Le rapport est adopté, je vous remercie. Une autre subvention, cette fois-ci à l'association Vidéographie Auray pour un projet Mémoire locale à Carnac. Madame Lamandé.
Oui, alors c'est un beau projet qui est intéressant pour la commune, parce qu'il s'agit de reprendre des films. C'est un travail qui est fait en commun. Vous avez vu peut-être le projet, vous avez dans les pièces jointes, vous aviez le projet. Donc c'est Vidéographie d'Auray qui travaille avec la vidéothèque de Bretagne. Et donc ils récupèrent des films qui sont sur Carnac. Alors c'est un gros travail en amont, parce qu'il faut trouver des films, il faut les choisir. Et des fois on ne prend que des petits bouts de films. Ensuite tous ces morceaux de films font l'objet d'un montage. Et ce montage sera... présenté dans les écoles, et sera présenté aussi avec le CCAS, avec les personnes qui ont vécu ça, qui ont vécu cette période-là, puisque c'est dans les années 1900-1950. Et l'intérêt de ce projet, c'est l'échange qu'il y aura entre les jeunes et les anciens. Les anciens qui rapporteront la mémoire de ce qui se passe, de ce que l'on voit, en reconnaissant une personne, en parlant d'un métier, etc. Et l'interrogation des jeunes qui, eux, découvriront certainement beaucoup de choses. Et donc, c'est un travail de protection de la mémoire locale, et c'est un travail de protection du patrimoine. Et donc le projet, comme vous avez pu le voir dans le dossier qui était joint, était à 15 000 euros.
Et nous votons une subvention, nous proposons de voter une subvention exceptionnelle d'un montant de 1500 euros à l'association Vidéographie Auray. Et pour information, le CMN verse 5000 euros sur ce même projet.
Pas de vote contre ? Pas d'abstention, unanimité, je vous remercie. Madame Lavandé, toujours une convention mise à disposition gratuite d'un local. Cette fois-ci, ce n'est pas pour les tennismen, c'est pour les joueurs de bombarde et de biniouf.
Oui.
Ah, ça va plus de bruit quand même.
Mais le Bagad a investi le rez-de-chaussée, vous avez le plan qui a été.
D'accord, même.
Oui.
Je suis nul en musique, moi.
C'est
toujours gênant.
Il va t'expliquer.
La cornemuse, c'est pas un instrument, la cornemuse, c'est une famille d'instruments.
D'accord.
Donc, c'est une famille d'instruments. Et le principe, c'est que.
Il se décline en
dedans. Le principe de la cornemuse, c'est qu'on a une poche qui fait réserve d'air et on souffle dedans. Et lorsque la famille des cabrettes, c'est qu'on a une poche qui fait réserve d'air et on a un soufflet et on régule.
D'accord.
Et donc, la cornemuse écossaise. Donc, le bagage joue de la
bombarde,
qui est l'instrument breton, et de la cornemuse écossaise. Et éventuellement le biniou breton, mais en ce moment, il joue. C'est pas le but, c'est un but de cornemuse écossaise.
Ouais, moi, je me suis
mais en fait, c'est un détail, mais.
Oui, non, c'est
intéressant.
C'est pas un détail, mais moi, je me suis arrêté à la flûte avec M. Lumi au collège Le Verger.
Il fait des cornemuses, en fait.
Il n'arrive pas à boucher les trous de la flûte avec
des cornemuses, il y en a sur toute la planète. Il y a plusieurs centaines de cornemuses sur la planète.
Merci. On a tous appris quelque chose, y compris dans le public. Merci Jean-Paul. Donc la mise à disposition d'un local, je ne me souviens même plus si on a traité le.
Non,
je
ne sais pas. Pour la... Donc la mise à disposition du local, donc s'il s'agit du rez-de-chaussée, enfin quasiment les trois quarts du rez-de-chaussée du bâtiment Le Rêve. Et donc nous faisons une convention à titre gracieux pour une durée de 2 ans, avec une reconduction express d'une année. Et donc voilà, nous vous demandons. D'accepter cette convention pour le Bagad.
Pas de vote contre, pas d'abstention. Les tarifs, la création d'un tarif et un règlement pour le marché de Noël, madame Lavandé, toujours.
Donc l'année dernière, le marché de Noël était mené de front par l'UCC. Malheureusement, cette année, ils ont décidé de ne plus s'en occuper, et nous pensons que pour Carnac, pour la ville et pour l'animation de Noël, il était vraiment important de conserver ce marché de Noël dans le bourg. Et donc nous allons, on a déjà commencé à travailler dessus, et pour cela nous devons créer un tarif de droit de place, puisque bien sûr les commerçants qui vont s'installer ne le feront pas à titre gratuit puisqu'il y a une occupation du domaine public. Et donc le marché aura lieu de 11h à 19h le week-end qui précède le samedi qui précède le 24 décembre, donc de mémoire c'est le 20 et le 21 décembre. Il se tiendra à peu près au niveau de la mini-ferme, c'est-à-dire chapelle de la congrégation, et descendra vers la rue Saint-Cornélie. Et nous avons une offre alimentaire, bien sûr, et non alimentaire. Et le tarif de droit de place est fixé à 2,50 € par mètre linéaire. Il est ouvert aux professionnels et aux associations de Carnac. Et on a demandé à tous les commerçants du bourg s'ils voulaient participer, ainsi que les commerçants qui étaient intéressants au niveau du marché hebdomadaire. Donc, nous proposons au conseil municipal d'approuver la création de ce marché de Noël, déjà, d'instaurer un tarif de droit de place à 2,50 €, mètre linéaire, pour chaque commerçant.
Parfait. Pas de unanimité. Alors, le dernier gros sujet, parce que c'est un sujet important, on va quand même demander à M. Lejean d'être sympathique, mais c'est l'encadrement des meublés de tourisme. Alors, vous savez que les meublés de tourisme et la location se développent, même si elle n'est pas
en développement fort à Carnac. Hein. On a toujours eu une activité depuis les années 50 et même avant de tourisme. Ceci dit, leur développement pose un certain nombre de problèmes. On a d'ailleurs quelques dossiers en cours, dont un à Port-en-Gros, de création de meublés de tourisme, et particulièrement dans des zones commerciales, où on est sur un cas, et c'est justement pour cela que nous avons décidé de vous proposer l'encadrement de ces changements de destination, où nous avions des commerces, et notamment en rez-de-chaussée, qui pouvaient être transformés parce que la législation le permettait, la législation nationale, et sauf à ce que la commune légifère sur le sujet, eh bien, nous ne pouvions pas nous opposer à la transformation d'un commerce en rez-de-chaussée dans une zone commerciale en logement meublé de tourisme. Donc, nous pensons que, évidemment, c'est très dangereux pour une commune comme la nôtre, hein, puisqu'on pourrait avoir un bourg avec potentiellement des Airbnb dans tous les rez-de-chaussée. Donc nous allons vous proposer, et Pascal va vous en décrire les modalités, eh bien, d'encadrer ce transfert. On ira se coucher plus tôt. Parce qu'on ne peut pas laisser faire ça, on vous propose d'encadrer ces. Il y a quand même des modalités.
Le détail des modalités, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, comme tu dirais, toi. C'est juste, donc, tu as dit, effectivement, c'est d'encadrer, d'éviter de perdre tout simplement des commerces en des meublés touristiques. En plus, on a la petite problématique qu'il suffit que vous ayez un bâtiment avec plusieurs meublés touristiques. Vous allez voir, la subtilité, elle est très compliquée, parce que vous pouvez devenir avoir une activité commerciale. Vous dites, je la garde, parce que c'est toujours une activité commerciale, parce que j'ai trois meublés de tourisme. Et l'État considère toujours une activité commerciale. Donc le but, c'est que là, on s'est dit, hop là, on va se faire vite coincer, et on risque de perdre des commerces. Je vous rappelle que dans le Bourg, vous avez quelques exemples. Bah, c'est pas évident pour les boulangeries, que ce soit le Fournil, mais on a un problème avec Meillère, anciennement Meillère, et ainsi de suite. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on mette à minima, et Estelle a travaillé dessus, à minima une réglementation pour demander une autorisation à la mairie de changement de destination pour éviter effectivement demain de se retrouver avec des commerces qui disparaissent au profit des meublés touristiques. Donc voilà, je vous l'ai fait un petit peu court, vous pouvez regarder. Alors ça, vous allez l'avoir régulièrement. Régulièrement, il y aura des modifs. IACTA travaille dessus. On a un cabinet d'avocats qui nous aide, et ainsi de suite, parce que pour essayer de trouver l'équilibre, hein, vous connaissez la problématique, vous entendez parler tous les jours. On en a parlé tout à l'heure indirectement. Aujourd'hui, on a nos politiques, je ne sais pas ce qu'ils foutent, mais ce n'est pas grave, c'est des engagements, je vous rassure. On sait qu'on a 60% des logements à l'année, en location à l'année, qui sont par des privés, et on n'a aucune modification sur le juridique à ce niveau-là. Aujourd'hui, aucun intérêt d'aller louer des logements à l'année. Juridiquement, c'est des emmerdes. Je ne vous parle pas financièrement, je vais vous parler que juridiquement déjà, avec ça. Donc, à un moment ou un autre, il vaut mieux faire du meublé touristique, bon emmerdé, puis en plus vous gagnerez plus d'argent, ou à la limite des meublés longue durée, parce que là, fiscalement, vous avez un intérêt. Donc, si vous voulez, voilà notre problématique. Donc, pour encadrer ça et pour éviter toute dérive, on s'est dit qu'il fallait qu'on mette un minimum de cadre et que la mairie ait la main dessus. Donc, effectivement, la commission urbaniste aura son mot à donner pour un changement de destination si demain un commerce passe. Voilà ce qu'on vous propose ce soir, mais je pense que vous verrez régulièrement ce dossier-là revenir en conseil municipal avec des modifications. Alors après, le détail de la virgule, je vous donnerai pas tout.
Monsieur Guinard.
Eh oui, puisque tout ça nous amène à quelques questions, évidemment.
Ah, c'est pas des questions cette fois-ci.
C'est pas un temps.
Non, non, je dis que c'est pas une intervention, c'est une question cette fois-ci. Parce que je disais toujours une question à l'aveuglement, et non, c'est une
intervention. Je peux le transformer en intervention après.
D'accord.
La première question, pourquoi la plage et pas le bourg?
Zone urbaine.
Zone urbaine, mais la plage, vous pouvez.
Alors c'est le contraire. Pourquoi le bourg, pas la plage?
Ouais.
Pardon. C'est ça qu'il aurait pu le dire.
Oui, mais pourquoi elle ne pourrait pas appeler, pourquoi
oui, mais parce pas que zone urbaine, que le bourg est considéré en zone urbaine, qui n'est pas le cas de la plage. Mais ça va être rare, mais c'est pour ça que je vous ai dit.
Et il faudra que la loi nous permettra de le faire.
Voilà. Vous allez le voir régulièrement, il va venir régulièrement derrière, c'est loin d'être parfait.
On est d'accord. Dans le texte, hein, les transformations de commerce en modèle tourisme contribuent à la réflexion de l'offre commerciale. Donc on est bien d'accord, il ne faut pas qu'on nous donne la possibilité de faire cela. Alors là, vous voulez qu'on vote pour donner la possibilité de transformer le local commercial.
Non, 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 c'est le contraire.
C'est que derrière que là que il y ait, pour pouvoir changer de destination, on ne peut pas interdire. On est d'accord? Pour pouvoir changer de destination, on met une réglementation qu'il faut avoir l'accord de la mairie, l'autorisation du service urbaniste de la mairie.
Tout ce que disait monsieur, non mais il y a, en fait on est la loi, on fait le maximum que la loi nous permet de faire. Je pense que la loi va évoluer parce que tous les maires des communes littorales sont vent debout et donc font pression. Pondent une législation qui s'applique non seulement pas aux zones urbaines mais à tous les cas, donc ça va être amené à améliorer. Là c'est la seule chose qu'on peut faire aujourd'hui dans le cadre de la loi, parce qu'en fait, encore une fois, le droit de la propriété en France est quand même extrêmement protégé par le juge, donc c'est pas satisfaisant, mais c'est la seule chose qu'on peut faire aujourd'hui dans cette zone. Il faut le faire, d'abord parce qu'il y a une posture politique, c'est de dire non, on ne peut pas perdre des commerces au profit des meublés de tourisme, et le rôle aussi des élus locaux, et je pense que ce sera l'objet de débats au Congrès des maires qui arrive dans quelques temps, c'est de demander aux législateurs de nous donner des vrais outils pour être plus efficace. Et si ton point c'est de dire ce système n'est pas parfait, je te dis oui, clairement, et il sera renforcé. Mais on peut faire que ce que la loi nous autorise à faire.
Je demande la transformation de ce local pour 6 mois en fait l'hiver, et je reviens après pour l'été en local commercial.
C'est une salle de bain et tout ça.
Ouais, enfin ça c'est.
Alors si on ouvre la boîte de Pandore, c'est toujours l'éternel problème après de faire le retour. Après, quel serait l'intérêt de
la musique.
Non, mais
je pose des questions aujourd'hui.
Ouais, non, mais c'est quoi, je vais la remettre dans l'autre sens.
Je préfère quand tu fais des interventions.
Il va falloir passer par une modification du PLU.
Non, c'est-à-dire que le PLU adaptera et intégrera effectivement, quand on fera la modification du PLU, n'est-ce pas Michel, intégrera effectivement l'ensemble de ces contraintes-là ou de ces directives-là, voir si entre-temps la loi a permis d'en apporter d'autres.
Comme nous tous, que les mairies veulent réduire justement les meublés de tourisme, les Airbnb et autres.
Enfin, certaines mairies qui sont.
Les certaines,
je veux dire qu'à Châteauroux, par exemple, les Airbnb.
Okay. Enfin, on leur donne un petit peu de façon plus
facile. Dans certaines zones.
Alors, on a mis en place. Pardon. On a mis en place depuis cette année 2025, effectivement, l'année dernière, mais enfin, qui est en cours pour cette année, que tout le monde est obligé de se déclarer pour être Airbnb, puisque maintenant il vous faut un numéro. Si vous n'avez pas un numéro en étant à Airbnb, vous ne pouvez plus effectivement louer, ou du moins les plateformes ne peuvent pas effectivement louer votre bien. Après, vous rentrez dans des cases bien précises de 120 jours par an ou pas. Après, vous passez en professionnel, ou vous êtes arrêté, ou vous changez de statut. Donc, c'est quand même, ça commence à être de plus en plus réglementé, cadré. Après, au jour d'aujourd'hui, c'est pas parfait. Oui, on n'est pas d'accord. D'ailleurs, vous avez des communes, beaucoup, et des communes bretonnes, qui sont passées de 120 à 90, voire certaines à 60 jours. Autorisation uniquement de 60 jours par an de louer, effectivement, et dans le cadre d'une résidence principale. Parce que je vous rappelle, il y a des cases bien précises pour rentrer dedans, derrière. Donc, c'est vrai qu'on est dans une période où ça bouge. Ça bouge parce qu'on a besoin de réglementation. On a besoin de quoi? On a surtout besoin d'éviter d'avoir une concurrence déloyale vis-à-vis des vrais professionnels. Je vous rappelle, hein, on va parler de la TVA, on peut parler d'un tas de choses. Derrière, on n'est plus exactement dans les mêmes cours par rapport aux professionnels. Donc il y a un moment, les professionnels, ils vont être vent debout. La taxe de séjour, même si maintenant on va considérer qu'elle est relativement cadrée par les plateformes, effectivement, mais quand même, il y a plein de choses effectivement qui se mettent en place. Et donc ça va continuer à évoluer. Là, c'était, on s'est trouvé dans le bourg devant une problématique d'éviter de faire passer des anciens commerces en meublé touristique.
Alors, donc on a besoin de... Voilà, la situation va évoluer. L'autre point, Yann, c'est que une commune, enfin nous n'avons pas souhaité mettre en place une législation, je dirais, spécifique à chaque commune, et qu'en fait on veut une intercommunalité. Et donc on a choisi dans un premier temps, parce qu'encore une fois les situations sont en une intercommunalité très disparate en termes de, voilà, en termes de fréquentation, en termes de tourisme. Carnoir, c'est pas la même chose que Carnac. Donc on a mis en place ce dispositif de déclaration qui va nous permettre de connaître précisément l'ampleur du phénomène. On va savoir combien on a de... Parce qu'on le savait, mais à la louche. L'année prochaine, on va savoir combien on a de Airbnb, et dans un deuxième temps, avec l'évolution de la législation et cet état des lieux qui sera extrêmement précis, on pourra prendre, et je pense qu'on sera amené à délibérer au sein de cette assemblée, des dispositions peut-être un petit peu plus strictes en matière de Airbnb. Encore une fois, c'est un sujet à la mode. Il faut vérifier d'abord si on a vraiment une augmentation du nombre d'Airbnb sur la commune. J'en suis pas persuadé, en tout cas... de tourisme, de meublé de tourisme, pardon, parce que Airbnb c'est une marque, hein, il y a d'autres marques sur le territoire. Voilà, d'abord, avant de légiférer, il faut qu'on ait cet état des lieux, c'est le choix qui a été fait à ACTA, et on légiférera, je pense, dans les années qui viennent. Là, on a un problème d'urgence, c'est qu'on voit des commerces, et là, une fois qu'un commerce est passé, c'est fini. C'est mort. Donc là, il faut qu'on agisse vite, alors que pour le reste, on aura des outils pour voilà, réguler, et on n'hésitera pas à le faire si on estime qu'il y a soit concurrence déloyale, soit une ampleur trop importante.
Et n'oubliez pas, c'est, on n'interdit pas, on demande tout simplement que la mairie donne l'autorisation ou pas. D'accord ? Donc ce n'est pas complètement fermé. S'il y a un endroit... Ça paraît logique, et de toute façon, garder un commerce à cet endroit-là n'a plus aucun intérêt, et qu'il faut mieux avoir un logement. Alors, est-ce qu'il faut avoir un logement d'un saisonnier ou d'autre chose ? Ça, c'est pas ça, on peut en discuter. Hein. Après, dis-moi, il suffit que la législation soit un petit peu différente. Hein. C'est pas très compliqué. Hein. Quand on regarde aujourd'hui l'intérêt, il n'y a pas photo. Hein. C'est pas dans l'ordre juridique et un intérêt fiscal.
Bon,
et
je vous propose de passer au vote, je pense que...
Oui.
Moi, j'ai pas fini, en tout cas, si vous voulez bien. Par rapport à ce que vous avez dit, on est les seuls à faire ce genre de délibération.
Je sais pas, je suis pas...
Aujourd'hui, on est, par rapport à ça, on est les seuls à mettre en place.
Je sais pas ce qui passe en conseil municipal.
On n'a pas, enfin, pas proposé au niveau d'ACTA de légiférer sur les meublés touristiques par rapport à des biens commerciaux. Effectivement, il n'y a pas eu de proposition, mais je pense que de toute façon, à la limite, on est peut-être des premiers, mais ça va venir.
Okay. Ensuite, dans le texte, il est bien écrit sur l'ensemble du territoire communal, demande d'autorisation de transformation. Je résume, seront instruites et accordées en fonction des critères. Il est bien évident que, malgré le travail des administratifs, on n'aura pas tous les critères, il y aura toujours une faille. C'est pour ça que je vous dis que, limite, on laisse la porte ouverte à ce que ça puisse
être. Non, il y a toujours des critères. Les critères, ce sera ceux qu'établira la majorité en place. Si un jour, et je te le souhaite, tu deviens maire de la commune, c'est toi qui décideras quels sont les critères en fonction des circonstances, du lieu. Comme le disait Pascal, il y a des lieux qui ont été commerciaux qui ne le sont plus, il y a des lieux qui sont en déshérence, et donc ces critères, ce sont des critères, je dirais, liés à la politique municipale. Ce n'est pas une porte ouverte, c'est justement, je dirais, la possibilité, en fonction des critères que fixe la commune à un moment donné, dans une géographie donnée, dans une situation urbaine donnée, d'empêcher qu'un encore une fois, c'est pas la panacée, il y a plein de d'améliorations qui devront être effectuées dans le futur, mais là c'est un premier geste, c'est aussi une posture politique.
Ok, aujourd'hui ça concerne le bourg, on est bien d'accord. Est-ce que, je vous demande pas de promesse ou autre, est-ce que vous pensez qu'on doit le développer pour aussi la plage, les commerces de la plage?
Oui, tout à fait. On doit le développer sur tout le territoire. Oui.
Partout où il y a du commerce.
Faut avoir la main pour pouvoir avoir le choix. C'est un choix qu'on a. Donc c'est pas fermé. Il y a la possibilité. S'il y a un intérêt, il y a un intérêt. À nous d'être assez ouverts ensemble pour définir ce qu'il y a. c'est un choix, c'est d'éviter de se faire piéger. Autrement, à un moment ou un autre, on aura des gens qui vont investir, qui vont en profiter parce que j'ai récupéré un local qui est un peu en désuétude dans un endroit, mais que rien, en faisant si ça, il y a un intérêt, et on va se retrouver vite fait.
On a un problème à Port-Andro, hein, tu le sais bien. Hein, on a saisi le procureur, voilà, on vient d'avoir plutôt des bonnes nouvelles, c'est-à-dire que le procureur a bougé, donc je pense qu'il va y avoir une réaction de la justice et de la gendarmerie, mais c'est très compliqué. Ouais.
J'entends bien tout ce que vous me dites et je crois pas totalement que la plage ne soit pas très importante.
Pour l'instant.
J'ai entendu. Et c'est pourquoi.
Le mieux est l'ennemi du bien.
Tu me déposes à la maison.
Ok, je vous propose de passer au vote cette fois-ci. Est-ce qu'il y a des votes contre? Vous êtes contre le fait d'empêcher des commerces?
Je viens de vous expliquer que j'étais pour l'idée globale, mais que c'est dommage que ça se limite au bourg, et là,
c'est là où je ne comprends pas très bien la cohérence, c'est qu'on peut déplorer, non mais vous votez ce que vous voulez, mais franchement, en termes de message politique, de dire, parce qu'il n'y a pas la plage, on va laisser les commerces se transformer dans le bourg, parce que c'est ça que vous votez, Je trouve ça assez incroyable.
Enfin, nous, la lecture du Bordereau, c'est le contraire, c'est-à-dire que le bourg ne peut pas, en effet, être préservé parce qu'il ne pourra pas faire de changement, c'est bien ce qui est écrit.
Il pourra être soumis à une autorisation préalable. Enfin, faites attention à ce que vous allez voter, parce que, enfin, franchement, je suis très surpris que, certes, ce serait bien que ce soit qu'un attelage, mais là, vous votez contre, ça veut dire que vous votez contre qu'on applique dans le bourg. C'est-à-dire que vous autorisez, votre position, c'est qu'on autorise le changement. Non, mais je vous le réexplique parce qu'évidemment, ça n'a pas l'air très clair. Vous autorisez, vous êtes pour qu'un commerce se transforme en meublé de tourisme. C'est bien ça.
Ce qu'on essaie de vous expliquer, mais vous n'avez pas la même vision des choses, c'est qu'on ne souhaite pas, on souhaite qu'aucun commerce ne puisse être transformé en meublé de tourisme, mais pour se faire sur l'ensemble du territoire.
Oui,
la loi ne nous permettra
de le faire, on le fera.
Donc je ne peux pas le faire. Aujourd'hui, je fais ce que je peux faire. Donc je fais le maximum de ce que je peux faire.
Non, mais on a suffisamment expliqué, maintenant chacun prend ses responsabilités. Donc est-ce qu'il y a des votes contre? Votes contre, très bien. Est-ce qu'il y a des abstentions? Le rapport est adopté. C'est un peu surréaliste. Hein. Vous irez l'expliquer, je pense, à aucun avis. Madame Gasser, le personnel communal. Marie-Pierre.
Alors, je vais le faire synthétique. Hein.
Tu es entre la fin du conseil et l'apéro.
Oui, c'est ça, oui. Ah ben, j'espère
que tu prends l'apéro.
Je suis toujours dans une position difficile où je ne peux pas m'exprimer, mais ce n'est pas grave.
Particulier.
Vas-y, je fais un micro.
Non, il s'agit simplement de la prévoyance qui existe du personnel, des agents communaux, que ce soit au niveau santé ou au niveau prévoyance pure. Nous avions un certain contrat, nous avions trouvé un contrat nettement plus intéressant pour le personnel communal qui s'appelle Collectim Santé, et vous avez les propositions qui sont en bas, que je ne vais pas vous énumérer, qui sont effectivement bien plus intéressantes pour le personnel, entre autres effectivement pas de questionnaire médical, pas de délai de carence. Donc il est intéressant pour la collectivité de pouvoir cotiser à cette prévoyance. On demande donc à Monsieur le maire de pouvoir procéder à cette adhésion. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, bien sûr.
Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité, je vous remercie. Il y a encore une mise à jour du tableau des emplois.
Oui, il y a une mise à jour du tableau des emplois. Alors, il s'agit effectivement d'un changement d'intitulé au niveau de l'urbanisme, puisque nous avons une responsable de service qui est en arrêt de longue durée, qui, à la fin de son arrêt, enfin, dans quelques mois, doit prendre sa retraite. Mais pour une continuité de service, on est bien obligé d'embaucher quelqu'un en responsabilité, mais on ne peut pas lui donner le titre de responsable de service, puisqu'il est déjà pris. Donc, nous avons modifié un titre d'instructeur qui n'était pas rempli pour le transformer en responsable d'aménagement et qui va prendre la continuité de service pour le moment. Voilà.
pas de bon compte, pas d'attention, donc je vous remercie. L'ordre du jour est épuisé. Il y a un certain nombre d'informations qui figurent dans le bordereau, dont les informations sur les contentieux. Monsieur Luneau n'étant pas là, je ne me permettrai pas de signaler qu'il a une nouvelle fois perdu son tribunal administratif, puisqu'il a été condamné à la somme de 1500 euros. C'est dommage, ça coûte beaucoup plus cher en frais d'avocat que ça ne rapporte. Passez un bon week-end et bonne journée. Au revoir.